C'est bon, c'est lancé. Alors, assalamu alaikum. Rebienvenue à un nouvel épisode. Le troisième enregistrement de notre série. Aujourd'hui, on commence notre randonnée déjà en hauteur, puisqu'on est au centre Tawhid de Lyon. On est venu rencontrer un ami cher, Farid. Moi, personnellement, je l'ai rencontré en 2015. 2015 à Genève.
2016.
2016, 2016 à Genève. Et avec moi aujourd'hui, j'ai Mohamed.
Salam alaikum.
Alaykoum salam wa rahmatoullah. Et on est très content. Merci beaucoup, Farid, de nous avoir accueillis. Et on va commencer par présenter notre cher invité, Farid. Si tu peux nous dire déjà quelques mots.
Bah moi, c'est moi qui vous remercie d'être venu. C'est un honneur parce que 200 km pour moi, c'est comme j'ai dit à Mohamed, j'espère être à la hauteur de l'événement. Parler 2 heures comme ça, en étant au centre de l'intérêt, si je puis dire, c'est pas évident. Mais alhamdoulilah, j'espère que notre discussion elle sera enrichissante et c'est moi qui vous remercie d'être venu.
Donc, comment tu peux te présenter déjà, si on commence par...
Ça dépend, vous voulez que je me présente parce que j'ai plusieurs casquettes,
Justement, moi
beaucoup de casquettes.
je veux pas mouiller.
Ah, si je fais un bref. Si je
Ouais.
présente brièvement mon parcours, bah déjà je suis lyonnais. Je suis né à Lyon, donc je suis un vrai lyonnais, on va dire. J'ai toujours été à Lyon, j'ai fait mes études à Lyon. J'ai fait des études notamment de sciences politiques à l'université Lyon 3 pendant 5 ans, donc jusqu'au Master 2. Et après, j'ai refait une année de journalisme à
OK.
Montpellier. Une année j'ai fait 2 Master 2. Le deuxième Master 2, c'était en journalisme à Montpellier.
Ah.
Et dès que j'ai validé ce Master de journalisme, je suis parti en Égypte.
OK.
Alors, juste un fait important, c'est que pour valider ce master, il fallait faire plusieurs stages. Et un des stages, je l'ai fait justement à la Tribune de Genève, au service international de la Tribune de Genève. Et sans le savoir, ça va avoir son importance. Parce que quand je suis parti en Égypte, moi, initialement, je suis parti en Égypte pour apprendre la langue arabe et faire des cours de théologie, apprendre le Coran, apprendre le Sharia, etc. C'est ça l'objectif initial. Et un mois après que j'arrive donc en Égypte, la journaliste qui travaillait pour la Tribune de Genève est passée à un autre journal, ben le journal Le Temps, un peu le concurrent. Et donc la Tribune de Genève m'a contacté, m'a demandé si je pouvais devenir leur correspondant permanent donc en Égypte, au Caire très exactement.
Donc à ce moment-là, tu étais déjà en Égypte.
Voilà, moi je suis parti en Égypte, donc j'ai validé mon diplôme en septembre et en 10 octobre j'étais en Égypte.
C'est en quelle
D'accord.
année?
C'était en, bonne question, 2011, octobre 2011.
Oh, c'était...
Donc je suis arrivé quelques mois après la chute de Moubarak. Donc c'était vraiment en plein ce qu'on appelait le printemps arabe à l'époque. Et donc ça va avoir son importance parce que moi initialement j'étais parti 2 ans. Pourquoi 2 ans? Parce que j'avais les économies pour rester 2 ans en Égypte. Et comme j'ai pu travailler pour la Tribune de Genève, bah finalement je suis resté 4 ans. Voilà, donc le double de ce que j'avais prévu de rester. Donc durant ces 4 ans, bah ça s'est bien passé. C'était très mouvementé. J'ai écrit pas mal d'articles pour la Tribune de Genève. Donc j'ai un peu retracé tout ce qui était, quand je suis arrivé, il y avait les élections législatives. Donc les élections législatives, puis les manifestations, puis jusqu'au coup d'État. Tout ce qui s'est passé jusqu'au coup d'État. Donc qui a eu lieu, si je dis pas de bêtises, en 2013, si mes souvenirs sont bons. Et bon, après le coup d'État, c'était beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile parce que bon, forcément, il y a eu le coup d'État de Sissi. C'était plus difficile pour travailler. Puis ça faisait 4 ans que j'y étais. Et c'est 2013 et 2014. J'ai un doute dans les dates du coup d'État.
Ouais.
Il faudrait que je revoie.
En tout cas, le juin, le 30 juin.
Voilà, c'était ça. C'était en plein été. Bref.
Ouais.
Et donc après, j'ai fait donc ma 4e année. C'était un an après que Sissi soit arrivé au pouvoir. Bon, j'avais fait le tour, on va dire.
Ouais.
Il y avait la volonté de rentrer. Et puis c'était beaucoup plus difficile de travailler parce que pour les journalistes, et surtout les journalistes étrangers, c'était compliqué. Et donc voilà, donc je suis rentré en France.
T'étais journaliste officiel, accrédité, avec les
Ouais, voilà. Alors moi,
autorisations locales.
j'ai jamais volontairement. Donc la Tribune de Genève m'avait proposé de faire une accréditation
Ah.
officielle, mais je l'ai jamais voulu. Et je pense qu'avec le recul, j'ai bien fait parce que j'étais pas identifié auprès des autorités comme étant journaliste. Donc je renouvelais des visas de tourisme, mais bon, au niveau du travail, ça changeait rien au niveau du travail que j'effectuais. Donc voilà. Et donc après, je suis rentré en France. Et donc j'ai commencé à chercher du travail dans le journalisme. J'ai vu que c'était assez compliqué malgré mon expérience. En parallèle, je me suis lancé dans l'écriture d'un ouvrage. qui est paru depuis même pas sur l'Égypte. L'objectif, c'était un peu de retracer, d'expliquer, peut-être aussi de façon un peu plus personnelle, comment j'avais vécu avec mon analyse plus personnelle, tout ce qui s'est passé en Égypte, pour montrer en fait comment on est passé d'une révolution qui a fait tomber un dictateur à une dictature finalement encore plus féroce, en quelque sorte plus dure. Donc je suis rentré en France pendant quelques mois, j'ai pas trouvé dans mon domaine. Après j'ai eu une opportunité à Genève auprès d'une ONG. C'est là j'ai rencontré Mohamed, donc Islamic Relief, la branche suisse un peu du secours islamique. Bon, c'est une expérience qui a duré que quelques mois finalement. Mais bon, ça m'a permis de faire la rencontre de la région Haute-Savoie pendant un an. Et donc comme ça n'a pas abouti, après je suis rentré à Lyon. Et là je me suis lancé donc dans le concours de professeur, d'enseignant. Donc, j'ai passé le concours de ce qui s'appelle le KPLP, donc concours pour enseigner dans le lycée professionnel. Donc le français et l'histoire. Donc pendant un an, je me suis préparé au concours, et alhamdoulilah, l'année dernière, donc j'ai eu mon concours, et là cette année, donc j'ai commencé à enseigner. Donc là, j'ai été pendant toute l'année l'histoire. À Lyon. L'histoire et le français.
Et
quand on enseigne en lycée professionnel, en fait, on fait deux matières.
Ouais.
Quand on enseigne en lycée général, il n'y a qu'une matière, et là, en lycée professionnel, ce qu'ils appellent la bivalence. Donc c'est lettres, histoire, français, histoire. Et donc là, cette année, j'étais dans un lycée à Lyon, donc lycée professionnel Tony Garnier, pendant un an où j'ai enseigné. Donc on est la moitié du temps en formation et la moitié du temps on enseigne. Et donc là, on arrive presque à la fin de l'année, alhamdoulilah. Donc.
Ouais.
Donc voilà brièvement mon parcours.
Il y a quand même en parallèle, je ne sais pas à quel moment en parallèle, mais tu as quand même une activité associative assez intense puisque tu es un membre actif de Chatibi. Donc tu peux nous expliquer ce que c'est que l'association Chatibi.
Voilà, donc effectivement, je n'ai pas parlé de la casquette associative. En fait, dès que j'ai commencé, donc là, je fais un flashback, comme on dit. Dès que j'ai commencé
Mais tu me permets, je te coupe. Parce que moi, avant de venir à aujourd'hui, pour moi, c'est toujours intéressant de revenir à l'enfance. C'est vrai qu'en général, on veut parler de ce qu'on fait aujourd'hui ou de ce qu'on a fait. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'enfance. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton enfant? Comment t'as grandi? Où est-ce que t'as grandi? Quelles sont les révolutions intellectuel que tu as eu, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton expérience?
Ce qui m'a marqué, si je devais parler de mon enfance, c'est un peu plus l'adolescence, c'est que moi j'ai grandi en Minguette, donc la cité
chaude,
cité très connue de Vénissieux à Lyon, et jusqu'à l'âge de 13 ans. Il y a 13 ans, j'ai déménagé et je suis parti à Saint-Laurent-de-Mur. Maintenant c'est un peu plus connu, mais à l'époque Saint-Laurent-de-Mur, c'est pourtant qu'à 20 km de Lyon. Mais c'était presque considéré comme la campagne. Et c'est vrai que ça a été un choc culturel. Parce que c'est vrai qu'à Vénissieux, où j'étais au collège, donc il y a plusieurs points. Et le premier, c'est déjà qu'il y avait beaucoup de diversité. On était beaucoup de gens d'origine maghrébine, notamment aux Minguettes. Et c'est vrai, quand j'arrive à Saint-Laurent-de-Mur, je crois qu'on était deux, trois familles au début quand je suis arrivé. Alors maintenant, ça a changé depuis. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué. Par exemple, c'est des faits tout bêtes, mais je me rappelle qu'au collège, souvent, nous, on jouait qu'entre garçons. Et quand j'arrive à Saint-Laurent-de-Mur, je retrouve. C'est les garçons, les filles qui jouent ensemble, là. Parfois même qui n'ont pas de, pas de tabou, qui sortent ensemble. C'est ça, quelque chose auquel j'étais pas habitué. Donc j'ai rencontré un autre univers culturel.
Et la famille est une famille, comment ils disent, conservateurs ou...
La mienne ?
Ouais.
Non, moi je suis issu d'une famille musulmane pratiquante. Hein, on a toujours été élevés, quand on était petit, on allait à la mosquée apprendre le Coran, etc. Mais c'est vrai qu'on est parti là-bas, tout simplement, parce que bon, alhamdoulilah, mon père il travaillait à son compte, il gagnait relativement bien sa vie. Bon, quand on vit aux Minguettes, il faut reconnaître, c'est qu'on y vit un peu parce qu'on y est contraint en quelque sorte. Tous les gens qui ont la possibilité de partir, ils peuvent partir. Par exemple, j'avais à l'école, je travaillais bien à l'école, mais j'avais des difficultés un peu en dehors de l'école parce que voilà, c'est pas toujours évident. Puis c'est vrai que les parents ont souvent peur. J'avais 13 ans, donc on commence à arriver dans l'adolescence. Et les parents craignent les mauvaises fréquentations. C'est plus difficile, je pense, d'élever des enfants dans une cité que. Donc c'est pour cette raison-là qu'ils sont partis. Et c'est vrai que la deuxième chose, donc comme je dis, il y avait un peu, entre guillemets, un choc culturel. Et la deuxième raison, c'est vrai que quand j'étais à Vénissieux aux Minguettes, j'étais très bon à l'école. Et je me suis aperçu en passant d'un collège à un autre la différence de niveau. Ce qui fait que je suis passé quasiment des meilleurs élèves et quand je suis arrivé, j'ai redoublé.
Wow.
Ouais, donc quand même, on voit qu'il y a cette différence. Bon, alhamdoulilah, après, comme c'est vrai que dans ma famille, on a toujours accordé beaucoup d'importance aux études. Donc après, j'ai pu remonter le niveau, etc. C'est le fait marquant c'est quelque chose qui m'a marqué. Voilà, c'est ce déménagement et de passer vraiment...
En général, c'est difficile à vivre ce changement, ce choc culturel. On passe d'une cité avec certaines caractéristiques de la cité et puis à un cadre beaucoup plus libéral où il y a beaucoup plus de mixité, il y a beaucoup plus de... Comment tu as vécu ça? Tu as dit, oh, non, 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 moi je ne vais pas me mêler avec ça, je vais faire ma bulle et je vais vivre dans ma bulle, ou tu t'es lâché quand même et tu... pour...
Au début, ce qui a été difficile, moi je me rappelle la première chose qui a été difficile, c'est que là on est arrivé l'été. On a déménagé en plein été. Et c'est vrai qu'à Vénissieux, au Maguette, il y avait beaucoup de gens, beaucoup d'enfants comme nous qui ne partaient pas toujours en vacances. Alors qu'à Saint-Laurent, c'était beaucoup plus aisé, donc, et puis on ne connaissait personne. Donc, le premier été qu'on a vécu, c'était avec mon petit frère, vraiment, c'était la galère parce qu'il n'y avait
Il y
personne
avait personne.
dehors et il n'y a pas autant d'équipements que tout est privé en quelque sorte. Il n'y a pas autant
Ouais.
d'équipements, surtout Vénissieux, c'est une ville communiste, donc ils insistent beaucoup sur tout ce qui est l'équipement
Ah.
sportif,
Ouais.
etc. Puis il y a beaucoup de gens qui jouent dehors. Tu vois, on sort, tu joues, tu prends ton vélo. Et là, quand on arrive là-bas, on ne connaît personne, on voit très peu de gens de notre âge. Donc, c'est vrai que le premier été, on s'est dit, oulala. Nous, on était très contents de déménager parce qu'on passait d'un appartement dans un HLM à une maison avec un jardin. Donc, pour nous, c'était génial.
Ouais.
Mais quand on est arrivé et qu'on a vu finalement le premier été, on s'est vraiment ennuyé. Bon, après, il y a eu la rentrée à l'école, on se fait des copains. Quand on a 13 ans, 14 ans, ça se fait naturellement. Alors, on sait qu'il y a des choses que nous, on ne fait pas. On sait parce qu'on sait qu'au niveau familial, par exemple, c'est vrai qu'on va. On va garder consciemment une certaine distance avec les filles, par exemple. On va pas faire comme les copains, on va pas traîner avec les filles quand ils font des soirées où il y a de l'alcool. On sait très bien que nous, on n'y va pas. Donc c'est vrai que moi, alhamdoulilah, j'ai toujours cette éducation religieuse qui m'a été donnée. Elle m'a beaucoup influencé jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai toujours respecté ce cadre. Bon, au départ, parce que les parents nous éduquent comme ça. Puis après, on est convaincu soi-même par ça. Et donc on vit comme ça. Mais non, il n'y avait pas. Bon, après, il y a des petites choses. Par exemple, c'est vrai que. Quand on jouait au foot, je me suis inscrit à l'équipe de foot locale, je jouais déjà à l'AS Maguette. Et donc dans cette équipe, je retrouve ceux qui étaient déjà devenus des amis, qui étaient aussi d'origine maghrébine comme moi. Et c'est vrai que parfois on voyait, un peu, par exemple, c'est tout bête, ça peut paraître des anecdotes avec le temps, on rigole, mais par exemple, on ne se douchait pas, nous. On était choqués par quand on arrivait à la fin des entraînements, des coéquipiers qui se mettent tout nus devant tout le monde et qui se
Toi,
douchent.
tu rentres en sueur chez toi.
Et non, nous, là, vraiment, c'est vrai
Ouais.
qu'on a des rapports à la
Ouais.
pudeur, etc., qui ne sont
Waouh.
pas les mêmes. Donc, non, on
Ça me rappelle des souvenirs. Moi, la première fois que j'ai vu ça, c'était à l'université de Lausanne, mais c'était choquant. Mais je m'attendais même pas. Et là, je vois des gens. Je dis, mais je rêve ou quoi?
Voilà, donc vraiment, je vois des petits trucs comme ça où après, quand il y avait des victoires, quand ils allaient, par exemple, en boîte de nuit, ou qu'ils allaient, nous, on n'y allait pas. Donc, c'est vrai qu'on s'entendait bien la plupart du temps, mais voilà, il y a quand même, on voit des choses où on reste quand même assez distant, etc. Bon, alhamdoulilah, bon, globalement, j'ai pas rencontré de gros problèmes. Puis après, on grandit, on s'affirme, etc.
Et sur la base de quoi tu as fondé un petit peu ta conscience ou ta culture un petit peu religieuse tu t'es basé sur quoi? Je pense à cette époque-là, c'était quoi? C'était les années 90, c'est ça?
Moi, c'était un peu après. Je les ai vécus. J'étais petit. J'ai pas souvenir, moi, de ces années. Notamment avec ce qui se passait en Algérie, mais ça, j'ai pas vraiment de souvenirs, j'étais trop petit. Moi, je suis né
Non,
en
mais je parle
86.
de tes 86. Donc j'imagine ton adolescence, c'était les années 90. Et c'était quoi? La culture religieuse qui circulait à ce moment-là, c'était des cassettes, j'imagine, aussi ici, non?
À l'époque, ouais, bon, nous, c'était souvent. Alors, au Maguette, on n'avait pas ce problème-là, parce qu'il y avait beaucoup de mosquées. Jusqu'à aujourd'hui, je crois d'ailleurs que Vénissieux, c'est la commune française où il y a le plus de mosquées jusqu'à maintenant.
Ah.
Donc c'est vrai que nous, on n'avait pas ce problème, puis j'avais toute ma famille, et en fait, mon père, il nous incitait à jeûner quelques jours quand on était plus petits, etc. Ça, on allait à la mosquée, je me souviens, pour commencer à apprendre l'arabe, apprendre le Coran, puis après, j'ai pris des cours avec un de mes oncles, etc. Donc c'est comme ça un peu que ça s'est forgé. C'est vrai qu'à l'époque, ça n'avait pas la place que ça a aujourd'hui. Par exemple, on parlait de l'islam des caves, c'est vrai que les maguettes, c'est des grandes tours de 14 étages. Et en bas, jusqu'à aujourd'hui, elles existent d'ailleurs, ces salles de prière. Ils aménageaient
Les caves.
officiellement ce qui devait servir de cave, ils l'aménageaient en salle de prière. Donc c'est vrai qu'on a commencé comme ça. Après, sont venues les mosquées. Moi, ce que je me souviens, par contre, un débat que mon père m'emmenait à la mosquée, dont j'ai bien souvenir, c'est les khutbas en français. Commençait à émerger cette idée qu'il fallait faire les khutbas en français parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ne parlaient pas français. Alors aujourd'hui, c'est devenu la norme. Mais à l'époque, c'était un vrai débat. Moi, j'ai souvenir, ça m'a marqué. Je me rappelle encore de l'imam sur le minbar qui avait fait en arabe et en français. Et à la fin, ça avait créé un peu un
Wow.
quiproquo, parce que notamment, il y a les personnes âgées qui étaient choquées toute leur vie. Ils ont entendu un imam qui parle exclusivement en arabe sur un minbar. Et là, il vient et
Donc
il
là où
parle.
t'habitais, là où tu as déménagé, donc j'imagine il n'y avait pas de mosquée.
Voilà, donc après, quand on a déménagé, ça a été différent parce qu'effectivement, là, il n'y avait pas de mosquée. La mosquée la plus proche, c'était ce qu'on appelait la mosquée de Dessine, qui est aujourd'hui restée célèbre parce que avec l'imam Mohamed Minta, qui est assez connu dans la région lyonnaise, qui est influent. Donc, on a quand même continué à voir, mais c'est vrai qu'on priait plus à la maison. On a continué à avoir ce lien parce que mon père nous emmenait à la mosquée de Dessine, notamment, pour, on va dire, conserver ce lien avec, voilà, en continuant à apprendre l'arabe, le Coran, etc. Mais c'est vrai que la difficulté, c'était plus au niveau des mosquées. Le rapport au quotidien à la mosquée, il était plus compliqué. Mon père, il nous emmenait au Jumu'ah. Lui, il continuait à faire Jumu'ah. C'est vrai que c'était plus compliqué. Et puis après, bon, pour Tarawih, tous les soirs pendant le Ramadan, on prenait la voiture et on allait à la mosquée. Il y avait plus de mosquée à vraiment proximité. Il fallait prendre la voiture et y aller. Sinon, on priait à la maison, tout simplement. Mais c'est vrai que pour la pratique, c'était un peu plus... Après, nous, on n'a jamais été détachés. C'est-à-dire que même à Saint-Laurent, on a continué à pratiquer. Voilà. Mm. C'est vrai qu'on était dans un univers culturel où c'était moins... Voilà, c'était comme il y avait moins de musulmans autour de nous et moins de salles de prière, forcément l'environnement il était différent.
Et pourquoi il y a eu ce besoin d'aller en Égypte pour apprendre?
Alors voilà, là, je reviens donc sur la question de Mohamed, sur l'engagement effectivement dont j'ai pas parlé. Je disais, il faut que je fasse le flashback. Je saurais pas expliquer comme ça qu'est-ce qui m'a donné envie de m'engager. Franchement, j'ai pas de... Moi, c'est vrai qu'au départ, j'étais très marqué, donc... Parce que c'était passé en Algérie dans les années 90, donc comme c'était mon pays d'origine, tu sais, à l'adolescence, on se pose beaucoup de questions, c'est quoi être français, est-ce que je suis français, est-ce que je suis algérien. Et c'est une période comme ça où je me suis senti très proche de l'Algérie. Quand on était plus petit, on allait en Algérie tous les ans, et je me suis beaucoup intéressé à ce qu'était aussi bien la guerre d'Algérie qu'après ce qui s'est passé dans les années 90. Alors, est-ce que c'est ça qui a eu une influence dans mon engagement? Je ne sais pas, mais c'est vrai que dès que j'ai commencé à rentrer à la fac, alors je pense qu'il y a un point qui est important, c'est le fait que moi j'ai toujours aimé beaucoup lire. Jusqu'à aujourd'hui, vraiment énormément lire. Et puis, je pense qu'à un moment donné, j'ai ressenti la nécessité d'apprendre ma religion, tout simplement d'aller un peu plus loin que ce qu'on pouvait nous enseigner à la mosquée, etc. Et donc, j'ai commencé à chercher. J'étais dans des bibliothèques municipales, mais je voulais vraiment une bibliothèque religieuse, en quelque sorte. Et c'est comme ça que j'ai connu Tawhid. Parce que jusqu'à aujourd'hui, comme vous l'avez vu tout à l'heure, au centre Tawhid, donc il y a une bibliothèque. Et donc, mon premier contact avec Tawhid, ça a été ça. Donc, je suis venu et on m'a dit, voilà, il y a une bibliothèque. Donc, la première année, je me suis inscrit et donc, je venais régulièrement prendre des livres et rendre des ouvrages. Et puis après, en discutant avec les libraires, en voyant qu'il y avait, à l'époque, il y avait l'Institut Chatibi, donc c'est le centre de formation qui commençait à émerger. Et donc, la première année, je me suis inscrit via la bibliothèque et la deuxième année, je me suis inscrit donc à Chatibi. Donc, la première, je prenais des cours de sciences islamiques et de langue arabe au début. Et après, j'ai donc adhéré à l'association assez rapidement d'ailleurs qui gérait le centre. Après, j'ai été membre. Je me souviens même que la première année en tant qu'étudiant, j'ai organisé une Umra. À la fin d'année, on nous avait dit voilà, il y a la possibilité de faire une Umra avec une agence derrière à Genève l'Atik. Donc, vous avez la possibilité d'organiser une Umra. Et donc, c'était moi qui l'avais organisé. Et notamment, on est parti avec un cheikh qui est aujourd'hui à Lausanne, qui est cheikh Mostafa Brahmi.
Ah oui.
Donc en 2008, voilà, la première année où j'ai été étudiant à Chatibi, à la fin, on est parti donc à Umra avec cheikh Mostafa Brahmi, ce qui a été un grand souvenir. Et depuis, j'ai jamais cessé d'être engagé. Alors pourquoi l'Égypte? Parce que, comme je disais tout à l'heure, quand j'étais petit, on n'avait pas forcément les khutbas en français. Et nous, c'est vrai, mes parents, ils parlent le dialecte maghrébin, le dialecte algérien couramment, mais à la maison, on a toujours parlé français. Quand on allait en Algérie l'été, ça ne suffisait pas pour... On arrivait quand même à échanger plus ou moins avec mes cousins. J'arrivais à échanger avec mes cousins et ma grand-mère qui ne parlait pas bien français. Donc quand même, on se débrouillait. Mais c'est vrai qu'il y avait des khutbas où franchement, je ne comprenais pas. Tarawih, comme mon père et moi-même, vous avez l'imam qui récite. Quand on est petit, ça paraît assez long.
Ouais, ouais.
Et on ne comprend pas grand-chose. Et donc très vite, je me suis dit, il faut que ça change, il faut que je comprenne. Donc assez tôt, je me suis mis dans la tête qu'il fallait qu'une fois que j'ai terminé mes études, que j'aille dans un pays arabe pour apprendre la langue arabe et l'arabe littéraire, et donc c'est quelque chose que j'avais toujours en tête, et c'est ce qui a fait que je suis allé en Égypte. Et donc depuis, j'ai jamais cessé d'être engagé. Alors quand j'étais en Égypte, forcément il y a eu une coupure, mais alhamdoulilah, depuis que je suis rentré, j'ai renoué, et donc voilà.
Et t'as réussi à apprendre, l'expérience de l'Égypte était une expérience réussie, t'as réussi à apprendre la langue arabe, là tu es à l'aise avec la langue arabe, grâce à ton voyage en Égypte.
Forcément, en 4 ans, donc moi quand je suis arrivé, j'étais à une trentaine de kilomètres du Caire et j'ai pris des cours avec une professeure.
D'accord.
J'étais avec privé, mon épouse, hein. Voilà, professeure privée.
Ouais.
Donc franchement, j'ai très bien avancé. Alhamdoulilah, j'arrivais vraiment à échanger. Quand je suis revenu, parfois certaines mosquées me sollicitaient pour faire khutbah. Donc j'arrivais à faire khutbah en français et en arabe. Donc forcément, entre le fidèle qui ne comprend pas ce que l'imam dit et se retrouver sur le minbar, être capable quand même de parler en arabe. Alors ça ne remplace pas la langue maternelle. C'est-à-dire, je pense que quelqu'un qui m'écoutait, il devait entendre quelques fautes, j'imagine. Mais globalement, j'arrivais. Le souci que j'ai depuis que je suis rentré, que je ressens vraiment, ça fait maintenant 3 ans que je suis rentré, 4 ans même maintenant, c'est le fait que comme il y a de moins en moins de liens avec la langue arabe, finalement, ici, je l'utilise très peu,
ouais.
fait que j'ai tendance quand même un peu, je vois, je le sens à oublier parfois.
Malgré que tu sois un membre actif quand même de Chatibi, donc j'imagine que tu es une plus-value pour l'association depuis ton retour à... T'as dû monter en grade, non? Depuis ton retour d'Égypte avec, avec une langue...
J'ai repris des responsabilités. Non, mais
trouver des personnes qui maîtrisent les deux langues, on va dire la culture française dans laquelle ils ont grandi, notamment toi, et en même temps qu'on maîtrise plus ou moins pointu de l'arabe, c'est quand même assez rare. Je veux dire, c'est pas que c'est rare, mais ça court pas le rue dans les associations...
Non, alhamdoulilah, il y en a de plus en plus. Franchement, ouais. Je pense que les gens... Ont... C'est vrai que Tawhid, paradoxalement, s'est battu, parce que Tawhid, ça a été fondé en 1989. Et c'est vraiment l'idée, c'était ça, c'était de se battre pour un islam francophone, puisque à l'époque, ouais. c'était surtout les arabophones qui géraient un peu l'islam de France. Et c'est vrai qu'un des combats de Tawhid, ça a été ça, l'islam francophone. C'est pour ça que la maison d'édition, elle a été fondée juste après, pour éditer justement des ouvrages en langue francophone. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que les gens l'ont compris vraiment... Il y a de plus en plus de jeunes qui partent.
Justement, toi, tu recommanderais à un jeune qui voudrait apprendre l'arabe et ou la religion d'aller en Égypte ?
Franchement, pour ça, je recommanderais. Ce que je n'ai pas dit, c'est que juste avant d'aller en Égypte, parce que pourquoi l'Égypte ? En fait, au départ, comme moi, je suis d'origine algérienne, je suis allé aussi bien en Algérie qu'au Maroc. Donc en 2011, même je crois que c'était à l'été 2010 ou l'été 2011. Et donc j'ai parlé aux gens de ce projet et franchement, je n'ai pas trouvé. Je suis allé à Rabat, je suis même allé à Fès et je n'ai pas trouvé d'institut qui enseignait la langue arabe, d'institut privé qui enseignait la langue arabe. J'ai même souvenir qu'à Rabat, les gens m'ont dit qu'il faut s'inscrire à l'université américaine pour pouvoir prendre des cours de langue arabe, ce qui m'avait marqué à l'époque. Je crois que ça a changé depuis. J'ai entendu, je crois d'ailleurs, que c'est des Français qui ont fondé des instituts au Maroc, mais à l'époque, ce n'était pas courant. Alors que franchement, au Caire, pour ça, il n'y a rien à dire. Ils sont habitués, il y a vraiment des centres de partout. Avec des méthodes précises, ils sont vraiment expérimentés à ce niveau-là. Et on trouve même des professeurs particuliers. Au départ, je devais partir en Syrie parce qu'on me disait que le dialecte syrien est plus proche de l'arabe littéraire que le dialecte égyptien. Mais comme il y a eu la révolution, puis ça a commencé à déraper, c'est pour ça que finalement ouais. je me suis retrouvé en Égypte. Mais quelqu'un qui veut étudier, franchement, ouais, je pense que l'Égypte, c'est vraiment en termes de niveau.
Ceux qui partent, même si tu le conseilles, mais ceux qui partent, après ton profil, je ne l'ai pas retrouvé ailleurs, mais ceux qui partent généralement en Égypte ou dans les pays arabophones, c'est leur motivation en première. Je pense pas que ce soit peut-être que tu en as rencontré là-bas, c'est pour ça que je te demande ça, mais c'est pas la langue, c'est en fait se retrouver dans un environnement culturel qui est identitaire, dans lequel ils se retrouvent le plus. Il y a des gens, je sais, qui sont partis X années dans des pays arabophones sans être arabophones en revenant, parce qu'ils ont été déçus. Bon, ils sont revenus parce que le projet n'a pas
fonctionné. En Égypte, c'est vrai qu'au Caire, dans certains quartiers, il y a beaucoup de Français qui partent. Des Français, c'est pas péjoratif, mais ça a tendance à être les filles qui vont faire hijra. Moi, j'étais dans une ville où il n'y avait quasiment pas d'étrangers. Après, il y a eu beaucoup de Syriens. Je pense qu'il y a des frères qui vont étudier en France. Il y en a, je pense, quand même, qui vont. Alors, c'est vrai qu'il y a toute une partie de gens de France qui
vont. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un facteur de réussite d'aller à l'étranger, de se dire.
Après, ce qu'il faut faire, c'est ça. C'est justement ne pas se retrouver dans une communauté francophone. Parce que tout dépend du but. Si l'objectif, c'est de faire hijra, c'est-à-dire s'installer dans un pays musulman pour vivre parmi des musulmans. C'est vrai que souvent, quand on y va, il faut bien qu'on ait un contact sur place. Et donc, les Français se retrouvent avec d'autres Français. Donc, le risque, c'est un peu ça. C'est vrai de se retrouver entre gens qui parlent que en français. Et au final, pas avoir beaucoup de contact avec les Égyptiens. Mais bon, je pense que des gens qui sont de plusieurs années, qui s'inscrivent dans des instituts, quand même, je pense qu'on finit forcément par... Parce qu'il faut bien, à un moment donné, avoir un contact avec la vie égyptienne. L'avantage d'être dans un pays arabe comme l'Égypte, c'est que tout ce qu'on apprend en théorie, on l'utilise après. Parce que c'est vrai que les Égyptiens, leur dialecte, il est quand même assez éloigné de l'arabe littéraire. Ouais. Par exemple, des Égyptiens, comme moi j'en ai rencontré, qui ne sont pas forcément allés à l'école, il y a beaucoup d'analphabètes. Parfois, j'avais du mal à échanger avec eux.
Ils n'ont pas compris.
Voilà, ils ne comprenaient pas. Si on utilise l'arabe littéraire vraiment classique qu'on apprenait, vraiment, et c'était compliqué. Mais sinon, franchement, je le recommande. Parce que voilà, je pense qu'il faut bien connaître sa motivation. Il faut y aller suffisamment de temps aussi.
Après, toi, tu as une formation académique, tu as quand même une maturité. Tu es assez mature. Je ne dis pas maturité parce que... Il risque de comprendre que c'est le bac. Donc, t'as assez mature, donc tu savais pourquoi tu allais. Donc, t'avais un objectif précis de 2 années, etc. C'était un projet construit. Mais moi, de ce que je vois, la plupart, et j'en parlais encore avec un ami qui est ici, Hakim, la plupart qui sont partis dans les pays du Maghreb ou arabophones, c'était vraiment dans le but de rechercher de s'épanouir islamiquement parlant. Mais pour la plupart, c'était un échec. qui sont revenus en fait, sans rien, je veux dire. Donc ton parcours, pas... je ne le retrouve pas ailleurs.
C'est possible.
T'en as rencontré toi des gens qui sont...
Ici à Lyon ou de manière générale?
De manière générale, oui.
Je ne sais pas, là, comme ça, il faudrait que je réfléchisse.
Donc, mais... oui, voilà. Dans ta réponse, il y a
la réponse.
Ce qu'il faut, je pense, Mohamed, pour partir, si je devais donner conseil à ces jeunes, la première, c'est ce que tu disais, c'est qu'il faut partir, comme savoir pourquoi on y va et se préparer. Parce que tu as les frères, des fois, ils partent, ils vont avec 500 euros en poche, ils te disent je m'en remets à Dieu, t'es auquel faire à l'endroit. Puis après, il y a une réalité qui s'impose à eux, c'est que là-bas, il faut déjà. C'est quand on vient comme ça d'Occident, qu'on le veuille ou non, on est des Occidentaux. C'est très difficile, par exemple, pour quelqu'un qui part d'Occident d'aller s'installer dans un quartier très populaire en Égypte et de vivre comme les Égyptiens. Il ne va pas supporter le bruit, il y a énormément de choses qu'il ne va pas supporter. Tu vois, et puis il faut quand même. Moi, une des raisons pour lesquelles j'ai réussi à rester 4 ans, c'est vrai, c'est que là-bas, je vivais dans un quartier qui était quand même assez aisé, que j'avais un salaire donc, qui venait de Suisse, et ça, ça joue énormément. Surtout pour des frères qui partaient avec leur famille. Moi, j'étais avec mon épouse. Et donc. On peut jouer le guerrier. Ouais. Je vais aller, je vais me mettre en colocation avec des Somaliens et des Égyptiens. Mais après,
j'ai mangé le full toute la journée.
Ah, j'ai du full toute la journée. Ouais. Mais après, il y a une réalité qui s'impose. C'est vrai, c'est tout bête. Donc, il faut quand même, je pense, avoir l'argent nécessaire pour pouvoir vivre convenablement. Parce que voilà, moi, je me souviens avoir visité des apparts dans certains quartiers où les propriétaires me disaient « ça ne sert à rien, ne venez pas, vous ne tiendrez pas ». Voilà, donc il faut quand même être conscient.
Avec une des maguettes.
Des maguettes, mais le cœur, c'est les maguettes puissance 10. Il y a des choses qui sont toutes bêtes en Égypte, mais ce qui m'a marqué quand je suis arrivé, c'est que là-bas, c'est tout bête, mais il n'y a pas de notion de tapage nocturne. Les ouais. Égyptiens, ils vivent la nuit, ouais. Par exemple, de manière nocturne très tard, ouais. Et donc on peut avoir du bruit jusqu'à très tard. Vous aviez les chiens errants au début pour dormir, vous dites, mais c'est ça. Et pourtant, je disais, j'étais dans un quartier, ouais. J'ai connu des gens, par exemple, ils peuvent vivre dans un quartier où en bas, et s'il a. Il suffit qu'il y ait un salon de thé, et jusqu'à 2-3 heures du matin, il peut se retrouver à s'endormir. Ouais, c'est tout bête, comme. Donc il faut y aller avec un peu d'argent, il faut bien connaître son attention. Et moi, le conseil que je donnerais, c'est de se détacher des Français. C'est-à-dire, il faut vivre vraiment qu'avec des gens qui ne parlent pas la langue qui est la nôtre. Déjà, nous, c'est tout bête, mais on passait beaucoup de temps à la maison. Et avec mon épouse, on se disait toujours, il faut qu'on parle en arabe, mais le naturel, il revient au galop. Ouais. Donc entre nous, on parlait en français. Vous voyez, donc c'est vrai que parfois, si on ne se mélange pas à la société, effectivement, les effets, ils peuvent être assez, assez limités. Mais quelqu'un qui a préparé son voyage... Et qui veut vraiment apprendre, franchement, pour moi, l'Égypte, c'est vraiment un pays que je conseille.
Et est-ce que le retour, il se prépare aussi? Le retour, il devait être difficile aussi. Après 4 années, t'es rentré quand même en France sur les 4 années?
L'été, je rentrais. Ouais. L'été, juillet-août, je rentrais pour des raisons climatiques. Parce que là-bas, franchement, au niveau chaleur, c'était vraiment insupportable. Donc l'été, je rentrais puis, pour voir ma famille, etc. Entre-temps, j'ai eu un enfant. Donc voilà, je le ramenais pour mes parents quand même. Et ils le voient grandir parce qu'ils l'ont vu grandir à travers Skype. C'était un peu difficile pour eux. Donc oui, le retour, il se prépare. Franchement, c'est vrai que le retour, il se prépare. Il y a des difficultés. Par exemple, c'est vrai que si on lâche son appartement ici, si on n'a pas de situation stable, quand on revient pour retrouver un appartement, il peut y avoir quelques difficultés. Donc tout se prépare, forcément.
Au-delà de la logistique, hein, je ne parle pas de l'aspect matériel. À moins quand tu reviens, parce que même si tu passais deux mois dans l'année ici, ton code culturel ou un petit peu évolué, tu te retrouvais un petit peu en décalage ou...
Non, moi, il n'a pas changé pour une raison très simple, c'est dès que je suis parti, je savais que j'allais revenir. Moi, je suis parti, je savais que c'était limité, je savais que je n'allais pas m'installer définitivement en Égypte. Donc quand je suis revenu, la seule chose qu'on constate qui est une évidence, c'est vrai, jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que pour faire ses prières quotidiennes, en tant que musulman pratiquant, on voit vraiment la différence, il y a une différence énorme. C'est-à-dire que là-bas, il y a des mosquées partout, il y a l'appel à la prière. Et donc, c'est vrai que je me rendais compte que 95% de mes prières pendant 4 ans, j'ai dû les faire à la mosquée. Parce que franchement, même quand on se déplace, il y a des salles de prière partout. C'est vrai que ça, quand on revient en France, on voit la différence. On voit la différence, c'est beaucoup plus difficile. Mais comme je suis parti avec l'intention de revenir, j'ai pas, à part ce point-là vraiment où j'ai vu la différence, tu vois, c'est pas eu un choc culturel. Je suis né en France, je suis parti pendant 4 ans. J'ai pas eu de difficultés à ce niveau-là de réadaptation ou d'adaptation.
Une dernière question pour moi par rapport à ça. Pour quelqu'un qui veut apprendre maintenant l'arabe, au risque de me répéter, moi je pense toujours à quelqu'un qui est aux États-Unis en ce moment et qui voulait apprendre l'arabe. Il est parti en Syrie, il est parti en Égypte, il est parti un peu dans quelques pays arabes. Et à la fin, il a dit, là où j'ai vraiment appris l'arabe littéraire, hein, c'est en France. Il a parlé de l'IESH. Et il a dit, c'est là où, quand tu rentres à l'administration, on te parle en arabe littéraire. Ce qui est marqué dans les murs, c'est en arabe littéraire, contrairement aux pays arabes qu'il a visités. Quand il parle aux gens, ils parlent en amia, ils parlent en dialecte. et il n'a pas pu vraiment apprendre l'arabe. Donc, quand je pense à cette personne-là, je me demande, est-ce que c'est vrai, ça, que l'option d'apprendre l'arabe en France, en tout cas, parce que lui, il parlait de France, est meilleure que l'option d'aller dans des pays arabes
Ou l'inverse, tu veux dire. Ah, est-ce que c'est mieux en France ? En
fait, est-ce qu'il y a des options qui sont plus intéressantes que les pays arabes ? C'est ça la question.
En France, en fait, c'est pourquoi on part, tout simplement, parce qu'on y passe beaucoup plus de temps. Quelqu'un qui travaille en France et qui veut apprendre l'arabe, voilà, il va s'inscrire.
Ah, mais... c'est une histoire aussi de...
Ouais, de temps, parce que là, quand même, moi, je faisais 5 fois par semaine, 3 heures tous les jours, tous les matins, à peu près de 8h à 11h. J'avais cours tous les jours, de 8h à 11h, 5 fois par semaine. Alors que si on étudie même 2 heures, même 4 heures par semaine, on évolue beaucoup plus vite. Après, c'est vrai que chaque pays arabe a son dialecte. Donc forcément, quand vous êtes dans la rue, même si vous faites l'effort de parler en arabe littéraire, souvent les gens ont tendance à vous répondre en arabe dialectal. Mais si je me base sur mon expérience, je ne pense pas que j'aurais pu faire en France ce que j'ai fait en Égypte. Franchement, vraiment, j'ai vraiment progressé. Jusqu'à aujourd'hui, quand je reste en contact avec des amis égyptiens, je suis capable d'échanger avec eux au téléphone, par WhatsApp en arabe, ce que j'étais incapable de faire avant.
Ouais, je pense que l'USH,
c'est vrai que moi, je connais des frères qui sont allés étudier l'arabe là-bas, mais le vrai problème de l'USH, eux, c'est ce qu'ils me rapportent, c'est que quand ils sont dans l'institut, une fois qu'ils sortent de cours, ils ont tendance entre eux à reparler en français. Donc c'est un peu le même... c'est un peu le défaut. L'USH, c'est surtout connu, par contre, ce que j'ai toujours entendu, c'est vraiment pour le Coran. Ceux qui veulent apprendre le Coran, c'est vrai que c'est vraiment très réputé pour ça. Mais moi, je garde franchement une expérience vraiment très positive de l'Égypte. Si c'était à refaire, je le referais et je sais que ça m'a permis vraiment quelques années.
Ce qui est intéressant dans ça, c'est justement le fait d'aller et de dire je vais aller dans ce pays pour faire quelque chose. S'il reste en France, il sera toujours en train de dire « Ah, je vais travailler à côté, je vais faire ça ». En plus,
Donc une fois que tu es revenu d'Égypte, là on en a parlé très brièvement tout à l'heure, mais tu as commencé à écrire, ou tu avais déjà commencé à écrire peut-être dans tes petits papiers, ton bouquin qui est édité chez l'Harmattan, Main basse sur l'Égypte. Donc tu peux nous en dire plus ?
En fait, ce livre, donc moi quand je suis arrivé en Égypte, comme je dis, je travaillais pour la Tribune de Genève. Franchement, ça s'est vraiment très bien passé. J'ai vraiment aimé ma collaboration avec eux. Jamais eu le moindre souci, parce que parfois certains me demandent quand t'écrivais ça, est-ce qu'il retouchait et tout. Franchement, à ce niveau-là, j'ai vraiment eu aucun souci. Donc, au départ, le projet du livre, c'était, il y a eu l'élection de Mohamed Morsi, donc qui est issu des frères musulmans, et c'était la première fois qu'un frère musulman arrivait en tête dans un pays. Il y a eu l'exemple du Hamas à Gaza, mais c'était qu'une portion du territoire. Et donc, c'est la première fois qu'un des plus grands mouvements islamiques ou islamistes, sans y voir à travers le mot islamiste, c'est pas péjoratif quand je dis islamiste, mais le plus grand mouvement islamique quasiment du XXe siècle qui prenait le pouvoir dans un pays. Donc au début, le livre, c'était ça, c'était pour raconter cette expérience. Et au final, quand il y a eu le coup d'État, j'ai changé totalement l'idée. J'ai attendu de voir un peu comment ça évoluait, même si je me doutais que ça allait évoluer dans ce sens. Et donc après, c'est devenu Main basse sur l'Égypte. Je l'ai écrit pour deux raisons. La première, c'est que quand on écrit des articles, en termes de place, on est limité. C'est-à-dire quand vous écrivez un article, on se met d'accord sur le nombre de signes, et vous disiez, vous faites un article de 2500 signes, de 3000 signes. C'est vrai qu'on aurait envie...
Quand tu dis signes, excuse-moi, je ne comprends pas.
Signes, c'est le nombre de lettres, en fait, quasiment. D'accord, le nombre de lettres quand vous écrivez. Okay. Donc on vous dit, pour que ça rentre dans ce qu'on appelle une maquette, dans un journal, vous êtes limité, vous ne pouvez pas écrire un article Donc vous êtes limité en termes de signes. Donc. Et c'est vrai que souvent, on a tendance à couper dans les témoignages, etc., à condenser ce qu'on voudrait dire. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais.
Voilà, donc on est obligé de condenser, parce que voilà, il faut que ça rentre dans dans la page de journal. Donc c'est une des premières raisons, c'est qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais peut-être envie de dire. Et donc un livre où on n'est pas limité du tout, ça s'adapte beaucoup plus. La deuxième, c'est que quand il y a eu le coup d'État, donc je suis rentré en France quelques temps avant de retourner en Égypte. Et c'est vrai que j'ai vu la façon dont on traitait ce qui se passait en Égypte du point de vue un peu des médias français. Alors pas tous, il y a toujours des nuances. Mais globalement, on expliquait qu'il y avait un président qui était arrivé au pouvoir, qui s'était d'un coup transformé en dictateur, et donc Sissi serait venu et allait rétablir la révolution. Et en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire, quand on vit, quand on suit la situation quotidiennement. Donc j'ai voulu aussi démontrer que c'était... En fait, si je devais résumer ce qui s'est passé en Égypte et ce que j'essayais d'expliquer dans le livre en un peu plus de 200 pages, c'est qu'en réalité, je pense que dès le départ, dès que l'armée a destitué Moubarak, elle savait où elle allait. Elle savait qu'en fait... Elle n'allait pas du tout instaurer la démocratie, etc. Et donc, on voit à travers le livre un peu comment le plan qui a été mis en place. En réalité, c'était destituer un homme pour sauver un régime. C'est exactement ce qui s'est passé avec le recul. Donc je parle de tout ça, des frères musulmans, des erreurs aussi qu'ils ont pu faire, parce qu'il faut, il y a eu des erreurs qui ont été faites de leur part. Et on comprend, quand on lit l'ouvrage, on comprend vraiment comment on est arrivé de finalement de Moubarak à Sissi, dont aujourd'hui tout le monde s'accorde à dire que finalement c'est pire, surtout sur le plan des droits humains, des libertés. Le régime de Sissi est encore plus liberticide que le régime de Moubarak.
Quand tu dis, j'ai l'impression que quand tu parles, c'est de la théorie en fait, c'est ce que tu penses. Mais quand tu écris ton bouquin, que je n'ai pas encore lu, que je vais lire, Inch'Allah, c'est quoi tes sources? C'est l'opinion? C'est t'as des contacts là-bas sur place d'autres journalistes qui sont un peu de tous les bords.
Ce qui m'a servi dans le même sens, quand tu écrivais tes articles, c'était des articles journalistiques ou c'était des éditoriaux tu présentes
Moi, c'était des articles journalistiques. Okay. C'était vraiment, par exemple, je sais pas, il y avait une manifestation, j'allais couvrir la manifestation, j'expliquais quand il y avait des élections, donc j'allais, par exemple, j'interviewais des candidats. Le premier article que j'ai écrit, c'était donc il y avait les élections législatives et c'était j'avais interviewé un responsable de Hezb Nour, le parti de la lumière, qui était le parti salafiste. Donc j'avais fait un portrait.
Mahioun.
Ouais, il s'appelait Nader Bakar, c'était le
porte-parole. Nader
Bakar, porte-parole. Donc ma première article, c'était ça. Donc je l'avais rencontré, on avait eu rendez-vous dans un hôtel, donc j'avais fait un portrait de lui pour raconter voilà, comment il... quelle Égypte, pourquoi il se présentait, etc. Donc c'était vraiment des articles journalistiques. Et pour te répondre, Mohamed, donc, la trame, c'était tout ça. C'est-à-dire que c'était déjà mes articles. Et puis surtout, j'ai vécu, j'ai vu l'évolution, j'ai discuté avec des acteurs, j'ai discuté avec des gens qui étaient... membre du mouvement du 6 avril, donc qui était un des principaux groupes qui avait fait la révolution le 25 janvier, avec des militants et des dirigeants des frères musulmans. C'est tout ça qui m'a servi un peu de... C'est ça qui a été la trame, c'est le fait d'avoir vécu et de raconter en fait de l'intérieur, finalement, quelqu'un qui a été sur le terrain, voilà, tout ce qui s'est passé. Donc il y a forcément une touche personnelle, c'est toujours... l'objectivité totale, elle n'existe pas forcément, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, quand je lis le livre, quand je revois ce que j'ai écrit, je me dis malheureusement, les faits m'ont donné raison. Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe en Égypte, on voit bien qu'en fait, ce coup d'État, c'était pas contrairement à ce que pensaient beaucoup d'Égyptiens, l'armée qui allait remettre l'Égypte sur la voie de la révolution, mais ça allait être un retour à la dictature pure et simple. Et c'est exactement ce qui s'est passé depuis.
Et justement, aujourd'hui, l'actualité montre qu'il y a un début de révolution, je ne sais pas si je peux utiliser ce mot-là, en Algérie et un petit peu au Soudan. Donc, est-ce que tu vois, est-ce que tu fais un copier-coller ou un parallèle?
Pas un petit peu au
Soudan. Parce que je ne connais pas la situation. Moi, je suis ce qui se passe très brièvement sur les médias. Mais sans pour autant avaler la pilule. Donc,
ce qu'on disait tout à l'heure en off, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le livre, il retrouve son actualité parce que c'est ce qui se passe à l'heure actuelle en Algérie et au Soudan, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est de l'armée qui destitue le président, mais finalement pour mieux sauver le régime. Et là, je pense, alors au Soudan, la situation, elle est moins médiatisée. Et moi-même, personnellement, je suis un peu moins ce qui se passe au Soudan, mais en Algérie, on voit vraiment, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire on leur dit, voilà, maintenant Bouteflika, il est parti, rentrez chez vous. Sauf qu'il y a les Algériens, j'ai l'impression, ont compris un peu, ils sont en train de parler pas de changement de président, mais de changement de système. Parce qu'en Égypte, c'est ce qui s'est passé, il y a eu un changement de président, mais le système, l'état profond, c'est-à-dire tous les réseaux de Moubarak qui étaient dans la justice, qui sont dans la justice, qui sont dans les médias, qui sont dans l'armée, qui sont dans la police, les services de sécurité, c'est les mêmes. Et aujourd'hui, c'est ça. Et vraiment, on retrouve le même scénario, c'est-à-dire on destitue Omar al-Béchir en Soudan, Bouteflika en Algérie, l'armée qui fait ça, mais le changement de système. C'est là,
toi,
c'est ça le
toi,
vrai
tu
enjeu,
penses que, en fait, ce compliqué. Que tu penses, tu prédis, en fait, je ne sais pas si on peut dire tu prédis, tu penses que ce qui s'est passé en Égypte, ça risque de se passer en Algérie aussi?
Alors,
malgré que la situation géopolitique n'en soit pas la même, parce qu'on n'a pas les mêmes frontières, ils n'ont pas les mêmes frontières, faut dire ce qui est.
Voilà, ils n'ont pas les mêmes frontières, mais c'est vrai que l'Algérie, ça reste quand même.
Entre parenthèses, on est le 14 avril 2019, parce qu'on va diffuser l'épisode. Plus tard, mais on est vraiment au milieu de la crise en Algérie et au Soudan. Peut-être que d'ici le moment de la diffusion, beaucoup de choses vont changer, mais on est le 14 avril. Voilà.
Oui, pour répondre, c'est difficile de prédire. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, je suis persuadé que c'est pas en descendant, ça suffira pas de descendre pacifiquement dans la rue pour avoir un changement de système. Ou du moins, là, on voit déjà en Algérie, par exemple, à l'heure où on parle, hier, donc là, on est samedi, hier, c'était vendredi. On voit que déjà à Alger, l'armée, elle a commencé à un peu réprimer les manifestants. Donc, si vraiment ils exigent un départ du système, là, le bras de fer, il risque d'être vraiment compliqué parce que là, c'est en Algérie, on parle quand même, c'est depuis l'indépendance. Donc, tu disais, ils n'ont pas les mêmes frontières, c'est vrai, mais l'Algérie, ce qui n'était peut-être pas le cas en Tunisie, c'est pourquoi c'est peut-être un des seuls pays qui a réussi, c'est qu'il y a des enjeux quand même géopolitiques qui sont énormes. Et c'est ça la grande difficulté dans ces pays. C'est vrai que l'Égypte, il y a une frontière avec Israël, il y a des ressources, c'est un grand pays, donc ça joue beaucoup. Puis c'est le pays arabe le plus peuplé, donc c'est vrai qu'il peut y avoir des ingérences étrangères. En Algérie, pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais voilà, c'est un pays qui est riche, qui a du pétrole, du gaz, qui a une certaine, qui a une histoire, une proximité avec l'Europe France. Et surtout la France, etc. Donc c'est ce qui fait que c'est compliqué. Moi, je pense qu'un changement de système, le bras de fer, il va être très très difficile. Ça ne veut pas dire que c'est impossible.
Si est-ce, le que, peuple... est-ce qu'elle a connu dans les années 90 ou 90 pour les Suisses est-ce que quelque part ça ne lui a pas servi de leçon ou justement ce passif-là, est-ce que la population peut se dire bon, on ne va pas retomber dans cette décennie noire?
Bah, la population, elle peut avoir cette... Mais est-ce que l'armée... Tout dépend finalement de l'attitude de l'armée. Parce que le tout en Algérie, l'enjeu, c'est ce qui est le problème depuis l'indépendance, c'est que c'est l'armée qui gère le pays. Pour faire très simple, c'est ça le vrai problème. C'est l'ingérence de l'armée dans les affaires politiques. Si vraiment une révolution en Algérie, si elle devait aboutir, c'est d'avoir un pouvoir civil, un vrai pouvoir civil. Et aujourd'hui, le problème, il est là. C'est que quand les gens demandent un changement de système, ils savent très bien, on parle toujours en Algérie, tout Algérien parle du pouvoir des généraux. On sait que l'institution militaire, ça a un peu changé, c'est vrai, ces dernières années avec Bouteflika, mais globalement, on voit bien aujourd'hui que voilà, on sait que c'est l'institution militaire qui tient le pays et qui décide, qui prend du moins les grandes décisions. Est-ce qu'elle, vraiment, elle va accepter, alors que depuis l'indépendance et que c'est un pays qui a énormément de ressources, de se retirer des affaires? C'est là où ça va devenir très compliqué et la confrontation, elle risque de se durcir. Si les Algériens arrivent à faire ça, là, on pourra parler d'une vraie révolution. Moi, je le souhaite, vraiment, je le souhaite. Parce que là, officiellement, ce qui se passe dans le calendrier, c'est qu'il va y avoir des élections. Officiellement, il doit y avoir des élections dans 3 mois. Bon, déjà, personne n'a le temps de se préparer. On sait très bien que le risque, c'est d'avoir une sorte de Bouteflika bis, finalement, qui arrive et que finalement, les mêmes problèmes, les mêmes maux sociopolitiques continuent. Donc c'est là où... Et en Égypte, c'est, pour revenir un peu sur le livre, c'est ce qui s'est passé finalement. Un des reproches qu'on peut faire aux frères musulmans, l'erreur qu'ils ont fait, c'est tout de suite vouloir aller aux élections alors même que le régime n'avait pas changé. Et c'est une fois qu'ils ont gagné les élections et qu'ils ont gouverné qu'ils se sont aperçus qu'en fait... Ils n'ont jamais eu le pouvoir. En fait, l'État, ils n'ont jamais contrôlé l'État. Ils étaient là, mais ils ne contrôlaient pas la justice, ils ne contrôlaient pas les services de sécurité, ils ne contrôlaient pas l'armée. Donc au final, les destituer, ça a été simple. Il a juste fallu à l'armée retourner la population. Et ça a marché. Toute une partie de la population contre les frères musulmans, leurs envoyés, ils sont au pouvoir et ils ne font rien, alors que les pauvres, ils ne pouvaient rien faire. Donc ils ont habilement joué. Et il faut tirer cette leçon égyptienne pour les Algériens. C'est-à-dire comprendre que la chute de Bouteflika, ce n'est pas la chute d'un système. Mais vouloir la chute d'un système, c'est là le vrai enjeu. Et à mon avis, ça risque de durer dans le temps et d'être compliqué.
Quand on écrit des livres comme ça, Farid, on prend des risques. Hein. Est-ce que tu as pris en considération qu'il y a des risques? Est-ce que tu as passé beaucoup de temps à réfléchir, à peser le pour et le contre, etc.? Ou tu as dit non, moi c'est mon travail, je vais le faire, puis je vais écrire.
Courageux, l'enfant.
Non, j'étais légitimé par ma position de journaliste, parce que c'est quand même un livre, voilà, il faut... Moi j'ai mes propres opinions, voilà, je ne l'ai jamais caché, c'est vrai que jusqu'à avec des frères, moi de par mon parcours, comme je disais tout à l'heure, de musulman pratiquant, etc., c'est sûr que je préférais Morsi au pouvoir que Sissi, pour être très sincère. Bon après, ça ne doit pas nous empêcher, nous aveugler, essayer en tant que journaliste de prendre du recul, de regarder la situation, essayer de l'analyser froidement, etc. Mais moi, ce livre, je l'ai écrit, franchement, étant légitimé par ma position de journaliste. Pour moi, c'est vraiment un travail de journaliste que j'ai fait. D'ailleurs, on le voit à travers toutes les sources. Je cite mes articles, etc. Certains confrères, il y a vraiment, c'est une enquête de fond.
Non, mais tu ne te dis pas, je vais être fiché.
Le seul chose que je savais, alors aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est le cas, c'est que je savais que ce serait très compliqué, en tout cas, tant que s'il sera au pouvoir, de retourner en Égypte. Je ne sais pas aujourd'hui si je peux retourner en Égypte.
Mais il n'y a pas que l'Égypte. Derrière l'Égypte, il y a l'Arabie Saoudite, il y a les Émiratis.
Je ne suis pas allé jusque-là déjà, parce que je n'ai peut-être pas l'intention de m'installer dans ces pays. Ouais. Non, je ne suis pas allé jusque-là. Je savais qu'en l'écrivant, ce serait peut-être une barrière pour retourner en Égypte, alors que j'y garde des amis, que peut-être forcément quand on arrive que dans un pays...
En même temps, tu évites le tapage nocturne.
Non, mais c'est vrai que je me suis toujours dit, par exemple, que quand tu vas dans un pays comme ça, tu aimes bien retourner, je ne sais pas, peut-être 10 ans après, puis il y a des gens avec qui en 4 ans. J'ai eu des liens étroits. Alors si je reste, il y a quand même ça, mais bon, l'enjeu, voilà, il fallait... Si on réfléchit à ça, on ne fait plus rien. Si on se dit à chaque fois le risque, on ne fait plus rien. Okay. Après, en France, je pense pas qu'il y a des risques majeurs. On reste quand même... Bon, ce n'est pas un livre qui fait l'apologie
non.
de...
Non, mais je me dis, parce que, tu dois toujours aller en Arabie Saoudite pour faire des Umrah. Bon, j'ai entendu que de plus en plus, les gens sont fichés et puis ils ont des... Mais... J'espère que...
Non, j'ai pas eu peur de ça en l'écrivant. Franchement, j'ai pas eu peur de ça. Pour l'Arabie Saoudite, j'y ai pas pensé, pour être très sincère. Si j'y vais en Arabie Saoudite, c'est pour pèlerinage. Généralement, ils interdisent à personne à personne ça. Non, je ne suis pas allé jusque-là, mais je savais, quand je l'ai écrit, je savais. Je me disais, bon, Farid, si un jour tu retournes en Égypte, tant qu'il y aura 6 au poids, ça peut être compliqué. Après, je ne sais même pas. Aujourd'hui, je ne sais pas si demain je vais en Égypte, ce qui se passe. Est-ce que peut-être qu'ils n'en ont jamais entendu parler, tu vois, c'est compliqué de savoir. Est-ce que je prendrais le risque à court terme? Je ne suis pas
pourquoi
sûr.
Pourquoi tu ne l'as pas publié chez Tawhid? Vu que tu es déjà...
Non, parce que Tawhid, tout simplement, c'est une institution qui publie des livres religieux. C'est vraiment ça. Il ne publie pas des livres politiques. C'est pas...
D'accord.
Puis bon, c'est bien aussi de sortir un peu d'essayer d'une maison d'édition qui soit
c'est vrai.
Peut-être plus neutre, finalement. Ouais, c'est important. Moi, je voulais au départ le publier à La Découverte, parce qu'une maison d'édition que j'aime beaucoup, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais c'est très compliqué, franchement, c'est très très compliqué de trouver des maisons d'édition. Parce qu'on s'aperçoit, en fait, quand on envoie le manuscrit donc, aux maisons d'édition, que franchement, c'est un business. Eux, ce qu'ils regardent, c'est la capacité, le nombre de ventes du livre qu'ils peuvent faire. Au-delà du contenu, est-ce que donc, toutes les maisons d'édition
qui ont pris le temps de lire
le manuscrit m'ont tout dit, c'est intéressant, mais on pense qu'il ne s'écoulera pas suffisamment pour le publier, donc c'est compliqué.
Moi, je pense, dans notre cas, nous aussi, c'est le contenu, je veux dire, en tant que toi, musulman français... Le regard que tu peux apporter, peut-être.
Non, franchement, je sais, parce que j'ai vu.
Je pense que c'est ce critère-là qui joue aussi.
Ça peut jouer, c'est sûr.
Tu peux avoir une influence sur la jeunesse.
Oui, comme je rigolais avec certains amis, c'est vrai que si j'avais. Peut-être, effectivement, que si j'avais écrit un livre à charge sur les frères musulmans, ou si j'avais peut-être qu'effectivement, on trouve toujours peut-être des maisons d'édition un peu, c'est la sensation qui aime bien. Peut-être, c'est vrai. Mais globalement, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être publié, c'est ça, il faut faire des livres vendeurs. Et bon, c'est dommage, parce que finalement, on peut écrire des choses intéressantes, mais qui intéressent peu de monde. Je savais qu'en France, il n'y a pas des... Surtout, moi, je n'ai pas voulu l'écrire dans le feu de l'action. Si vraiment j'avais voulu qu'on en parle beaucoup plus, etc., il fallait l'écrire au moment du coup d'État. Mais bon, moi, je trouvais que c'est un travail qui prenait du temps, il fallait... Donc, c'est sûr qu'au moment où il est sorti, déjà, on parlait beaucoup moins de l'Égypte. Aujourd'hui, comme je dis, c'est vrai que le livre, il est vraiment intéressant par rapport à l'actualité. J'aurais pas pensé que... Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe en Algérie ou au Soudan, il peut vraiment servir. Si on veut lire comment ça s'est passé, le scénario égyptien, pour pas qu'il se reproduise, c'est vrai qu'il peut servir. Mais c'est compliqué de manière générale, parce que voilà, il faut que les maisons d'édition, elles vous disent, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est vendre. Et donc voilà, un livre...
Donc t'es passé de... Je me souviens qu'en 2014, t'es venu chez Islamic Relief, c'est ça?
2016. Février
donc,
2016.
Je me souviens qu'à cette époque-là, tu terminais l'écriture ou tu cherchais à le publier?
En février 2016, je venais de terminer l'écriture et donc j'avais demandé à certains proches de le relire. Parce qu'au départ, il faut le relire pour voir déjà si c'est compréhensible. Parce que quand on a la tête dedans, c'est un travail qui m'a pris, je crois, un peu plus d'un an quand même. Plus d'un an. Donc c'est, voilà. Alors une fois qu'on a la tête dedans, après, il faut que d'autres personnes le lisent. Donc en février 2016, j'étais vraiment dans la correction, dans la relecture. Et c'est après que j'ai commencé à envoyer les manuscrits aux maisons d'édition, et je crois qu'il a été publié, je pense que tu peux regarder, février 2017. C'est écrit là.
C'est
février 2017.
Voilà, donc entre le moment où je l'ai trouvé et le moment où il est publié, ça a pris à peu près un an.
Ouais. Voilà. C'est ton premier livre, c'est ça?
C'est mon premier livre.
Et j'imagine il y a d'autres livres qui vont suivre.
Je sais pas.
Faudra qu'il retourne chez Islamic Relief. non, j'ai ça parce que je voulais rebondir sur Islamic Relief après, sur le...
Juste pour répondre à la question, je sais pas. Pour l'instant, en fait, je pense qu'il faut, pour écrire un livre, il faut pas écrire pour écrire. Il faut vraiment avoir quelque chose à dire. À court terme, j'ai pas
de projet.
J'ai pas de projet d'écriture.
Ouais. Mais puisqu'on est au centre Tawhid, puis il y a une grande librairie qui est historique et très connue au niveau même européen. Donc là, le centre Tawhid, c'est plusieurs institutions. Juste pour comprendre déjà où est-ce qu'on est, il y a une librairie et il y a l'Institut Chartébi, il y a d'autres choses, non?
Alors le centre Tawhid, donc pour faire un peu l'historique, pareil, pour que les gens comprennent, donc l'association qui gère, c'est l'Union des jeunes musulmans. L'Union, donc l'UJM. Pendant très longtemps, on a parlé de l'UJM, même si c'est le Mont Tawhid, le centre Tawhid, il a pris le dessus. Donc ça a été fondé, j'ai dit tout à l'heure 89, je crois que c'est 87. Ouais, c'est 87. Donc l'idée, c'était des jeunes francophones et engagés qui voulaient s'investir un peu dans l'islam en France ou l'islam de France.
Des Lyonnais.
En fonction, c'était des Lyonnais essentiellement. Et donc la première chose qu'ils ont fait, c'est acheter le local dans lequel on est. Là, si on est à 5 minutes de la gare Pardieu, on est quasiment au centre-ville, c'était volontaire. Ça, par exemple, ça a été une volonté des frères de dire, voilà, on veut sortir un peu de nos quartiers, de nos banlieues et ramener l'islam au centre. On est dans le 6e arrondissement de Lyon, qui est un arrondissement assez chic, un des arrondissements les plus chers de Lyon. Donc ça a été une volonté des frères. Mais l'idée principale, c'était ça, c'était de développer un islam francophone. Donc 2 ans après, ils ont fondé la maison d'édition Tawhid. Donc ils ont commencé par traduire les classiques. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de livres. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui voulait apprendre l'islam en français. Il avait le Coran traduit de Mohamed Hamidullah, rahimahullah, je crois, une traduction de Hadith Nawawi. Donc il a vraiment quelques ouvrages de base. Il n'y avait pas, comme aujourd'hui, énormément d'ouvrages. Donc eux, ils ont commencé à reprendre des classiques et à les traduire. Et après, ils ont organisé un certain nombre d'événements, par exemple des conférences. Ça, c'est ce qu'on fait toujours depuis 30 ans. Donc des conférences mensuelles, des Qiyam al-Lil, donc des veillées nocturnes pour les frères, pour les sœurs. Ils se sont engagés...
Dans le même local.
Tout ça, ça s'est passé dans le même local.
C'est la première fois que tu utilises le mot sœur. Tout à l'heure, tu dis les frères, dans les années 80, ont eu l'idée justement de développer l'islam francophone. Et, je voulais te couper, mais justement, dans ce projet-là, il y avait...
Je crois que les fondateurs, ce sont que des frères. Je voudrais vérifier historiquement, mais je crois que les fondateurs, ce sont que des
frères. Ok, mais aujourd'hui, elles sont pas mal investies. J'ai vu que dans le sens, il y a pas mal de sœurs.
Elles sont pas mal investies. On pourra y revenir après. C'est vrai qu'il y a beaucoup, énormément de sœurs qui s'investissent, beaucoup plus que les frères. Par exemple, dans nos bénévoles, tu trouves 80% de sœurs. Mais les frères qui ont fondé, à ma connaissance, je crois qu'il y a que des frères. Donc, je disais, voilà, ils faisaient des conférences, des veillées spirituelles, donc des veillées nocturnes jusqu'à aujourd'hui, une fois par mois, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui est resté. Après, il y a eu la création de la bibliothèque. Et donc, voilà. Après, ce qui a beaucoup changé, bon, aujourd'hui, avec l'actualité, c'est un peu particulier, mais quelque chose qui a beaucoup changé au milieu des années 90, ça a été la rencontre avec Tariq Ramadan. Donc, ça a été une sorte de coup de foudre entre certains responsables de l'association et Tariq Ramadan. Et donc... Il y a eu l'histoire de Tariq Ramadan, elle est un peu liée à l'UJM. Donc lui, il était à Genève, il revenait d'Égypte. Et lui, il cherchait un peu une base pour les soutenir. Et les frères ont trouvé en lui une sorte de porte-parole. Donc c'est vrai que l'UJM et Tawhid, c'est souvent collé. D'ailleurs, les premiers livres qu'il a publiés, ils étaient justement publiés aux éditions Tawhid. Donc il y a eu comme ça une corrélation entre l'histoire de l'UJM et l'histoire de Tariq Ramadan. Voilà, aujourd'hui, pour faire très simple... Donc après, en 2006, c'est là où il y a eu un point important, c'est qu'en 2004, 2005, 2006, on a fondé un institut de formation, l'Institut Chatibi. Et c'est vrai que cet institut, il a pris beaucoup d'ampleur. Donc aujourd'hui, il y a 500 étudiants qui étudient. Donc c'est vrai que ça a pris beaucoup d'énergie au sein des membres, ça a pris beaucoup d'ampleur. Et donc on se retrouve, pour faire simple, dans des locaux un peu exigus. Donc on a un grand projet d'agrandissement à l'heure actuelle. On continue en parallèle à faire tout ce qui est les activités spirituelles, donc on continue nos conférences, il y a toujours la librairie, la bibliothèque, on continue à faire les Qiyam al-Lil, nos veillées nocturnes, etc. Donc tout ça, on continue. Ce qui a un peu changé ces dernières années, surtout après les débuts des années 2005, l'UJM, dans les années 90, était très engagé sur beaucoup de sujets comme l'islamophobie, comme ça a été par exemple une des premières associations à se mobiliser à Grenoble pour les jeunes filles à l'époque qui étaient virées parce qu'elles portaient le voile islamique, etc., sur la question de la Palestine, etc. Donc c'est vrai qu'à Lyon, même aujourd'hui, beaucoup de frères qui sont engagés, même dans des mosquées, des imams, très souvent ils sont passés par l'UJM et par le Centre Tawhid, ce qui est plutôt un honneur pour nous. Alors, par exemple, je parlais de Mohamed Minta, mais beaucoup d'imams. Donc, c'est vrai qu'à Lyon, l'UJM a une certaine, on va dire, a une certaine aura, c'est assez connu, le Centre Tawhid est assez connu, ou ne serait-ce que par rapport à l'édition des livres en langue française. Donc voilà ce qu'est le Centre Tawhid.
Donc la Chatibi, c'est un peu l'organe d'enseignement et pédagogique de Tawhid.
Voilà, exactement. On va dire que l'UJM, l'association, gère le centre. Et dans le centre, il y a plusieurs choses. Donc il y a la maison d'édition qui est une des activités. Il y en a qui gère tout ce qui va être les activités spirituelles. Donc ce qu'on appelle les halakas, les cercles spirituels, les veillées, les conférences.
Moi, j'aime bien un peu tout ce qui est histoire. Excuse-moi, tout ce qui est histoire. Donc Chatibi, ça représente quoi? Ça représente qui?
Il faut être plus précis dans la question.
Donc Chatibi, le terme Chatibi, c'est quoi? C'est un personnage historique?
Chatibi,
ou c'est
même Chatibi, oui.
D'accord, voilà.
Chatibi, donc, c'est un imam et un grand savant qui a écrit un livre qui s'appelle Maqasid Sharia, les finalités de la Sharia. Ouais. Et si on devait résumer, pour faire simple, aujourd'hui, si on parle des mouvements, il y a deux lectures, si on veut, de l'islam. Deux approches de l'islam, exactement. Un peu une approche plus littéraliste. Tu vois, qui prennent les textes un peu comme ce que représente le courant salafi, c'est-à-dire de manière assez littérale. Et un autre courant qui cherche les finalités de... C'est quoi l'objectif de la loi? C'est quoi ce qu'on appelle Maqasid Sharia? C'est vrai que l'imam Chatibi a écrit un livre qui a une référence sur ça, où il parle des finalités de la loi. C'est-à-dire, c'est quoi l'objectif de la Sharia? Pourquoi cette règle, elle a été édifiée? Et donc, ces deux approches. Et donc, nous, forcément, on est plus proche de cette approche. Alors, je ne sais pas... Je crois qu'à l'époque, il y a plusieurs noms qui ont été lancés. C'est celui qui a été retenu. Comment exactement? Je ne saurais pas le dire. Je ne saurais pas le dire, mais Après, ça s'est développé. Aujourd'hui, il y a un centre Chatibi. Il y en avait un à Avignon. Je ne sais plus s'il est toujours en route, je ne crois pas. Il y en a un autre à Stein, dans la région parisienne, pas loin de Saint-Denis. Donc après, ça s'est développé. Il y a eu plusieurs branches de l'Institut Chatibi. Mais...
Et les cursus, comment ils sont à l'Institut Chatibi? Il y a des cursus bachelor, master ou...
Ça ne va pas aussi loin. Ça reste des cours. Donc il y a les cours de sciences islamiques. Ils étaient en 3 ans. Je crois que maintenant, ils sont sur 4 ans. Il y a des cours de langue arabe, pareil, avec différents niveaux. Et donc, il y a des cours de Coran, pareil. Donc, avec le temps, ça s'est perfectionné. Donc là, en fonction du niveau avec lequel on vient, on vous place dans une classe. Donc, par exemple, là, moi, cette année, j'étudie le Coran, donc ici. Donc, il y a ceux qui commencent par la lecture, apprendre la Fatiha, Juz Amma. Après, le niveau d'après, c'est ceux qui, après, on les apprennent Al-Baqara, donc la première sourate du Coran. Et après, il y a la possibilité pour ceux qui veulent continuer d'apprendre 2 pages par semaine et pour essayer vraiment d'arriver à l'apprendre par cœur, pourquoi pas. Donc voilà, c'est classé par niveau. Pareil pour la langue arabe, il y a le niveau 1 débutant de ceux qui vont apprendre à lire. Et puis après, c'est vrai. Je crois qu'il y a d'ailleurs un site, chatibi.fr, où on peut retrouver tous les programmes et la façon dont c'est organisé.
Très bien. Je reviens. Et puis, il y a la maison d'édition. À la base, tu as dit, ils ont commencé par... déjà traduire. Et maintenant, ils publient des livres écrits à la base en français, j'imagine. Je ne sais pas à quel point tu es au courant de cet environnement de publication où les gens qui écrivent en langue francophone, où le type de livre, le type de sujet, le profil des gens qui publient en général. Je ne sais pas à quel point tu peux nous dire quelque chose sur ça.
Nous, ce qu'on a... C'est souvent soit des imams, pas mal d'imams qui écrivent, soit des penseurs. C'est souvent des gens qui ont forcément un lien avec l'environnement islamique, qui ont des penseurs. Après, ce qui marche beaucoup, ce qui se fait beaucoup ces dernières années, parce que c'est ce qui marche le mieux, c'est les livres pour enfants.
Ouais.
Ça, c'est un truc qui marche le mieux, les livres pour enfants sur les histoires des prophètes, etc. Donc,
souvent... c'est ce qui marche le mieux, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Finalement, vous êtes comme toutes les autres maisons d'édition, en fait. Tu me dis ce qui marche le mieux. Moi, je regrette un petit peu, je suis pas un lecteur assidu comme toi, mais j'aime bien tout ce qui est sociologie, histoire, etc. Quand tu rentres dans une librairie, bon, après, on est en France, mais j'ai l'impression qu'il y a une pauvreté dans ce qui nous est proposé dans des maisons d'édition islamiques. Je pense à Al-Buraq, je pense à Al-Tawhid, etc. Peut-être à Al-Buraq, ils sont un peu plus pluridisciplinaires.
Ouais, c'est vrai.
Mais c'est pas, ça va, Anas? Parce qu'Anas, il m'a dit qu'il ne faut pas utiliser des mots compliqués. Donc attention, vous êtes mauvais pour.
Vas-y.
Toi, est-ce que tu arrives à satisfaire ton envie de lecteur quand tu rentres dans une librairie islamique?
Un des déficits qu'on a, mais je pense qu'il y a des raisons historiques profondes, c'est sur l'histoire. C'est vrai qu'on a peu de livres.
L'économie aussi.
Après, il faut trouver, c'est pareil, il faut trouver les frères qui soient capables.
Ouais.
Tu vois, c'est toute la...
Ou sœur.
Devenu féministe.
Non, je te dis ça parce que... Non, c'est pas ça, j'ai des débats avec ma fille.
Mais on va dire c'est l'homme avec un grand H, c'est l'humanité entière.
Tu sais quoi, on va ouvrir une parenthèse là, avant de revenir à ça. Sauf si tu...
Non, vas-y, je t'en prie.
On a eu cette discussion-là juste avant d'arriver. Par rapport à la traduction, puisque aussi le Centre Tawhid a commencé par la traduction et une grande partie, j'imagine, de leur activité, c'est traduire des livres, on avait eu cette expérience d'une petite ayah dans le Coran, « Khalaqa l'insan ». Ok ? Alors toi, comment tu traduirais « Khalaqa l'insan » rapidement comme ça ?
Il n'y a pas de piège.
Il n'y a pas de piège. « Khalaqa l'insan ».
Je dirais qu'il a créé l'homme.
L'homme H minuscule ou l'homme H majuscule?
Moi, je le verrais l'homme H minuscule dans un premier temps. La première chose que ça me dit, khalaq al-insan, c'est l'homme minuscule. Parce que
pour moi,
la deuxième chose. Alors, la première chose, c'est H minuscule. Et la deuxième chose, quand tu penses au mot al-insan, ce que ça veut dire l'insan?
Ouais, ça peut avoir le sens d'humanité.
Non, est-ce que ça peut avoir ou ça a, ça a le sens de l'humanité?
Ouais, l'insan, ça englobe l'ensemble des
gens. Non, l'insan, tu prends n'importe quel dictionnaire, il va te dire c'est un être humain. Et on a pris une quinzaine de traductions en anglais, en français, et puis on trouve homme avec H minuscule.
D'accord.
Heureusement, j'ai trouvé une seule traduction en anglais où on parle de human. Alors que insane, tu parles à n'importe quel arabophone, tu prends n'importe quel dictionnaire en arabe, Et c'est écrit avec H minuscule. Donc on a eu cette discussion. Moi je trouve que c'est une faute, et c'est une faute grossière. Quelqu'un qui traduit, il ne doit pas faire, parce que tu parles à n'importe quel arabophone, il ne va jamais prendre l'insane comme homme minuscule, comme homme avec H minuscule.
Ouais, c'est possible. Après, c'est peut-être parce que dans notre tradition islamique, c'est wa khalaqa lakum min anfusikum. Alors on dit que s'il a créé l'homme et qu'à partir de l'homme, tu vois, il a créé. C'est peut-être pour ça que nous. Mais c'est vrai que si on réfléchit étymologiquement, oui, effectivement, on peut. Mais c'est vrai que la première chose qui vient, wa khalaqa l'insan, on pense à l'homme, alors comme tu dis, ça englobe plus l'humanité.
Mais pour quelqu'un qui traduit, moi je trouve, je peux pas accepter qu'il traduise l'insan.
T'as regardé dans la traduction de Tawhid, parce qu'on a un Coran qui a été traduit, qui a très
bien
marché.
J'ai vérifié presque 15 traductions.
Qui a très bien marché.
Je pense pas, j'ai une seule traduction en français. J'ai vérifié dans d'autres traductions. J'ai une seule traduction en français, je me rappelle pas ça s'appelle comment.
Des fois
mais
on trouve dans certains versets, par exemple, « وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا ». Souvent, on le traduit par « il a créé l'être humain faible ».
Voilà.
Voilà.
L'insan, en général, quand tu prends n'importe quel dictionnaire arabe, c'est l'être humain. Et alors que la traduction, elle se fait. Ok, désolé, ça c'est entre parenthèses.
C'est pour les auditrices.
C'est ça. Non, mais parce que ma fille, elle prépare un travail sur le féminisme en islam. Donc, et sa prof lui faisait remarquer, qui est non-musulmane, qu'elle a pris ce verset-là. Qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que ça parle de l'homme ou de l'homme avec un grand H ou que de l'homme... dans son genre, donc la discussion est partie de là.
D'accord.
Ouais. Donc on revient, on disait quoi avant ? Désolé.
Oui, on s'est arrêté.
On s'est arrêté, ouais, on
sur
parlait
l'histoire,
de...
voilà, il m'a dit l'histoire, après il me disait l'économie, donc c'est aussi l'offre aussi, c'est vrai que l'offre, il faut trouver les gens capables d'écrire sur ce sujet-là. C'est vrai qu'en histoire, on a eu beaucoup, ça change aujourd'hui, je vois un certain nombre de maisons d'édition, qui, par exemple, récemment, je suis tombé sur une maison d'édition qui s'appelle les éditions Nawa, il me semble.
Je connais pas.
Qui écrit beaucoup de choses sur l'histoire. Et pareil, je suis tombé sur un livre et il faudra que je retrouve la maison d'édition. Donc de plus en plus, ça se fait. Je pense que pendant longtemps, ça ne s'est pas fait aussi parce que notre histoire, elle est un peu particulière. Par exemple, je sais que dans le monde chiite, eux, ils ont énormément travaillé sur l'histoire, contrairement à nous. Et c'est vrai que nous, on a eu beaucoup plus de réticence. Je pense que c'est lié à cette histoire-là. Je vois des divisions, tout ça, que le monde sunnite n'a pas trop voulu parler de ça en disant, avec ce fameux slogan, ceux dont nos mains n'ont pas participé, nos langues n'y participent pas non plus, voilà, de ne pas rentrer dans... C'est peut-être ça qui a été un frein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un déficit à ce niveau-là, je suis d'accord. Pour l'économie aussi, après, il faut regarder, je pense, sur tous ces sujets-là, il faut avoir peut-être une perspective globale. Il faut voir qu'en France, on publie des livres en langue française depuis les années 80, 90. Le temps d'avoir une vision économique, islamique, qui soit liée à l'Occident, etc., c'est pas évident. C'est peut-être aussi pour ça, parce qu'il faut avoir cette double casquette. Être bon en économie et être bon en théologie.
Ouais, ouais.
Donc c'est peut-être ça qui fait que c'est pas évident. Récemment, j'ai eu une discussion avec l'année dernière, avec Cheikh Mostafa Barami, je sais pas ce que... Donc lui, il est en train d'écrire un livre, puisque lui, il a un peu cette double casquette. Il a un doctorat en économie, et en même temps, il a un bagage religieux qui est important. Et donc je sais qu'il écrit un livre sur la zakat, mais de façon très approfondie. Il a écrit un livre sur Fiqh al-Salat, donc pareil, vraiment assez détaillé. Là, il a écrit un livre sur Fiqh al-Zakat, et en partie, il reprend, par exemple, il m'expliquait, par exemple, que c'est quasiment impossible pour un savant d'un pays musulman d'expliquer à un chef d'entreprise français comment est-ce qu'il doit payer sa zakat. Parce qu'il faut forcément qu'il connaisse l'économie française et comment elle fonctionne pour pouvoir payer sa zakat, entre guillemets, convenablement. Ce qui est très difficile, parce que bon, voilà, tu vois, donc c'est peut-être pour ça aussi que sur ces sujets-là, on trouve moins de production. Allahu a'lam.
Ouais. On avait, dans l'épisode qu'on avait fait avec Baptiste Brodard, on avait soulevé en fait ce point. On peut trouver beaucoup de choses dans des vidéos, dans des enregistrements, dans des conférences. On va trouver énormément de personnes qui ont des opinions, qui vont t'expliquer des choses, qui vont aller plus loin. Mais quand on va chercher des livres, parce que qu'est-ce qui fait au final la différence ? C'est des livres qui sont écrits. C'est ça qui a un impact. La conférence, c'est les centaines, 200, 300 personnes qui vont l'écouter, et puis c'est tout. Par contre, ton livre, là, il sera lu par beaucoup plus de gens, et il va rester pendant longtemps pour qu'il soit consulté, lu, et puis...
Ce que tu disais aussi, c'est que, contrairement à ce que dit Farid, tu avais des gens peut-être qui ont la capacité intellectuelle, qui ont cette capacité à faire des publications, mais que... pour éviter toute traçabilité,
c'est surtout ça aussi.
D'éviter sur le feu des critiques, en fait. Donc, pour éviter d'éviter de prendre la responsabilité, éviter d'être sous les feux des critiques, il n'y a pas de traçabilité, on n'a pas écrit, on a juste Ça se fait par voie orale, mais prendre la responsabilité de marquer,
de le mettre
en publication, c'est peut-être une crainte que ont certains intellectuels.
Non, je pense que c'est aussi par du fait que moi j'ai pu voir, écrire un livre, ça prend du temps. Moi, ça m'est arrivé qu'on me demande de préparer des conférences. Franchement, c'est utile. Mais bon, si tu es à l'aise avec le thème, en une heure, deux heures, tu peux préparer une conférence. Par contre, écrire un livre, je vois, ça demande quand même beaucoup plus de temps. Ça demande d'être posé, d'avoir une réflexion plus longue. Il faut aussi avoir la matière pour qu'il y ait quand même un contenu qui soit suffisant. Je pense que c'est peut-être toutes ces contraintes qui font que ça peut être compliqué. Alors que c'est plus facile de faire une conférence, tu vois. C'est plus facile de faire une conférence, de faire une roadmap. Peut-être, comme tu dis, il y a l'histoire, le fait que nous, on a une tradition orale et qu'on a mis du temps, même pour, par exemple, écrire le Coran, etc. Ça ne s'est pas fait tout de suite, il a fallu attendre. Est-ce qu'inconsciemment, on est marqué par ça? Je ne sais pas. Il y a aussi, moi, je pense, le fait, franchement, ça, je pense que c'est un point à ne pas négliger, le fait d'avoir du mal à publier. Il faut quand même en être conscient. Alors maintenant, il y a plein de choses qui se font, auto-édition, etc. Mais c'est aussi compliqué. On a aussi une communauté, il faut le dire, qui ne lit pas beaucoup et de moins en moins de gens qui lisent. Moi, je vois, par exemple, là, je suis enseignant. Franchement, les élèves aujourd'hui, ils ne lisent plus. Vous leur demandez quels sont les derniers ouvrages qu'ils ont lus. Franchement, ils ne lisent plus. Et l'apparition, une des raisons, par exemple, pour revenir un peu en arrière, quand je disais pourquoi moi j'étais journaliste de presse écrite, une des raisons pour lesquelles je n'ai pas trouvé que la presse écrite est en crise, c'est que les gens, même le journal, ils ne prennent plus le temps de le lire. C'est-à-dire qu'on est passé à une. Tout est digital, les gens ont toutes les infos sur leur mobile, ils passent énormément de temps sur leur mobile. Et finalement, la matière livre, j'ai demandé une expérience qui m'a marqué cette année, j'ai demandé à mes élèves d'acheter un livre. Enfin, moi, ça me paraissait banal, moi, d'acheter un livre. Il y a des élèves qui n'ont jamais ramené le livre. C'est-à-dire que même le rapport avec le papier elle peut devenir... ça se perd. Et donc, c'est peut-être ça aussi, le fait qu'on a des générations qui lisent de moins en moins, qui sont très souvent sur leur mobile. Alors, c'est pas forcément toujours négatif. Pas voir en disant ouais, c'était mieux avant, mais c'est vrai qu'il faut peut-être trouver la façon de. Ils lisent finalement. Je leur dis vous lisez, mais vous lisez beaucoup sur les téléphones. Tu vois, et c'est donc il faudrait peut-être trouver une façon de mettre le contenu pertinent sur des mobiles ou sur de façon digitale pour que ça.
Mais l'utilité, elle passe pas toujours. Souvent, hein, souvent l'utilité de ce qui est écrit d'un livre, ça passe pas toujours à travers une lecture généralisée du public. Moi, je trouve l'utilité, elle passerait beaucoup plus à travers des intellectuels. Okay, je vais utiliser ce mot qui peut-être ne veut rien dire. Des intellectuels qui vont lire le livre à côté d'autres livres et qui vont former des opinions et qui vont présenter ces opinions à travers les différents canaux médiatiques. Et c'est ça qui va former un petit peu la culture générale de ceux qui n'ont pas le temps de lire ou qui ne lisent pas ou qui sont sur leur smartphone. Donc, le fait d'écrire, de ne pas écrire juste parce que les gens ils vont pas lire, je trouve que c'est une mauvaise approche. Il faut toujours présenter ses opinions, parce qu'au final la culture du peuple, elle sera composée d'un petit bout de chaque livre. Et sinon on a une tradition orale, on va faire des conférences.
Moi, je pense qu'il y a aussi l'aspect fainéantise. Je ne sais pas si je peux dire ça, fainéantise. En France, il y a matière à publier, à faire des travaux, etc. Parce qu'on est toujours sous le feu de l'actualité. Donc tout de suite, tu vas trouver sur des auteurs orientalistes, islamologues, etc. Ça se dit encore
orientaliste ? Oui, ça se dit orientaliste.
Donc des auteurs qui ne sont pas forcément musulmans. Tout de suite, et... Ils prennent la plume pour diffuser un avis. Mais sur le musulman, il n'y a pas de tac au tac où ça ne va pas répondre. C'est-à-dire, ça ne va pas tout de suite donner un avis sur l'actualité pour orienter une partie de la communauté. Ouais. Voilà. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Enfin, même beaucoup. Quoi. Mais ne serait-ce que sur l'histoire, on parle de l'histoire. Allez, l'économie, allez, c'est compliqué. Donc, il y a l'économie conventionnelle, islamique. De faire d'éviter d'amalgamer les deux, de faire des travaux bien distincts, faut avoir des compétences techniques, enfin d'expertise. Mais l'histoire, on a le temps de l'écrire, on a le temps de tu vois, même toi, le bouquin que tu as fait sur l'actualité, t'as quand même mis 2 ans, 1 an et demi. Mais quand on parle de l'histoire beaucoup plus lointaine, moins contemporaine, y a rien. Enfin, je sais pas, moi je dis à part Ibn Khaldoun.
Ouais, c'est vrai, non. Tabari,
c'est ça.
Non, c'est vrai qu'on a un déficit, on le sait, on a un déficit. Après, il faut regarder aussi, parfois, alors tu parlais d'orientaliste ou d'islamologue, il faut voir, parfois il peut y avoir des livres historiques, comment dire, qui ne soient pas orientés négativement. Ah ouais. Tu vois, des gens qui ont pu faire un travail sur l'histoire de l'islam, sur l'Empire ottoman, sur l'Empire, etc. Donc peut-être qu'il faut regarder à ce niveau-là pour... peut-être qu'on peut trouver de la matière à ce niveau-là, tu vois. Mais c'est vrai que nous, dans notre communauté, aujourd'hui, c'est pas évident. C'est vrai que c'est un déficit auquel il faut répondre.
Ouais. Mais en tout cas, la conclusion pour moi de cette partie, c'est bravo pour ce livre. Je t'encouragerai de réécrire plus. Hein.
Voilà. Donc en parallèle, quand tu cherchais à publier le livre et tu terminais son écriture, tu t'es orienté sur de l'humanitaire. Donc, tu ne peux nous en dire un peu plus.
Qu'est-ce que j'ai le droit de dire?
Tu dis ce que tu veux.
Franchement, ça m'est tombé dessus un peu comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a le Centre Tawhid et juste à côté, il y a le CBSP, donc le Comité de Bienfaisance et de Secours aux Palestiniens. Donc régulièrement, le frère qui gère le CBSP me demandait des coups de main. En fait, ce n'est pas moi qui suis allé à Islamic Relief, c'est Islamic Relief qui est venu vers moi. Ce qui s'est passé tout simplement, donc, c'est que pour l'historique, si je me souviens bien, donc c'est une des stagiaires qui était à Islamic Relief qui a parlé au directeur, donc Jamel Krafes, qui lui a parlé donc, de Foued, qui était le libraire, et qui lui a dit « Foued, c'est quelqu'un qui est engagé dans l'associatif. Si tu cherches quelqu'un, parce qu'à l'époque, il cherchait quelqu'un, donc il lui a dit « Si tu cherches quelqu'un, appelle-le et peut-être qu'il va te donner des contacts. » Donc il l'appelle en disant « Voilà, je cherche quelqu'un qui soit sur le terrain, qui a déjà fait des visites dans les mosquées, etc. » Et donc lui, c'est mon nom qui lui est venu en tête, parce que Foued, il est libraire à Tawhid, il est aussi bénévole au CBSP. Donc voilà, il connaissait mon profil, etc.
Il y a beaucoup de casquettes ici. Hein.
Voilà, il y a beaucoup de casquettes, on fait tout ici.
J'ai un grec aussi, avec un taxiphone.
Non, on est enseignant, on fait des recrutements, on fait tout en fait. Et donc il lui a parlé, donc et voilà, Foued m'appelle, il me dit voilà, il y aura un poste ensuite, est-ce que tu es intéressé, etc. Moi j'ai dit,
C'est quoi le constat que tu fais, les quelques mois que tu as passé dans l'humanitaire?
Moi, mon expérience aujourd'hui.
Parce que l'associatif, tu le connais déjà, mais propre à l'humanitaire.
Je pense, moi j'ai fait qu'une. À part le CBSP, j'ai fait que Islamic Relief. Il y a tellement d'organismes humanitaires qu'il ne faudrait pas, je pense, tirer de mon expérience, finalement, qui a été assez courte, à Islamic Relief, pour tirer des conclusions sur l'humanité en général. Après, moi, mon expérience à Islamic Relief, c'était un échec. Il faut dire les choses. J'ai travaillé, ça ne s'est pas bien passé. Tu te fais licencier au bout de trois mois.
Non, pas licencié, fin de contrat. C'est pas la même chose.
Non, j'ai été licencié. J'ai encore la feuille de licenciement. Non, voilà, moi, personnellement, ça ne s'est pas... Après, bon, toute expérience, comme on dit, ce qui ne tue pas renforce, selon la célèbre phrase. Donc, ça reste une expérience, mais globalement, j'en tire pas. Pour moi, ça a été un échec.
Ouais, mais j'aime pas utiliser le mot échec, mais malgré cette expérience, tu t'es quand même, continué quand même à t'investir dans l'associatif, notamment avec Chatsibi, où tu fais de la collecte de fonds, tu t'es dans l'événementiel. Bon, c'est ce qui a fait un petit peu Islamic Relief.
Je pense, de par mon expérience, et je suis bien placé pour en parler, c'est que pour moi, il faut pas vivre de... Aujourd'hui, c'est très compliqué, à part quelques exceptions, de vivre de l'associatif islamique ou de l'humanitaire. Il vaut mieux rester bénévole, parce qu'en dépendre aujourd'hui, c'est très compliqué. Moi, j'ai pu voir, franchement, j'ai eu deux, trois expériences. À chaque fois, ça a été négatif. Je pense pas que ce soit toujours de ma faute. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'après, je me suis dit, il faut voilà, que j'ai un autre métier et rester bénévole dans ce domaine-là. Mais vivre de ça, franchement, c'est compliqué, parce que voilà, notre communauté, elle est ce qu'elle est. Elle a beaucoup de qualités, elle a aussi des défauts.
Je me souviens que tu m'as dit un jour que tu étais encore sur Annemasse et tu déménageais, je crois. Quoi. Tu déménageais une énième fois, là tu es retourné à Lyon. Tu m'avais dit, on a fait le constat avec mon épouse, faut pas travailler pour la communauté musulmane, dans le sens où être salarié. Donc,
voilà, moi je dis ça parce que je sais que quand je suis rentré d'Égypte, comme j'avais fait des études théologiques, comme j'avais étudié les sciences islamiques et que je parlais arabe, etc., j'ai parfois été sollicité par des mosquées. Et parfois, les mosquées, ça m'est arrivé. Moi, j'ai eu plusieurs propositions pour être imam. Mais quand tu vois aujourd'hui, soit la rémunération, soit le travail qu'on te demande rapporté à la rémunération, tu vois qu'il y a un problème. Les gens, en fait, on a du mal, et parfois les responsables ont du mal à faire la distinction entre ce qu'on appelle faire fisabilillah, c'est-à-dire le faire, fisabilillah, je ne sais pas si tous les auditeurs comprendront, et le fait et avoir une rémunération.
Auditrice.
Ou auditrice. On va parler au féminin parce que
maintenant t'as vu, maintenant il y a les académiciens,
voilà, écriture inclusive, voilà, exactement. Donc je disais, par rapport à ça. Donc moi-même, j'ai pu avoir des... Moi, j'ai jamais voulu, c'est vrai, jamais voulu être imam, mais c'est vrai que quand je vois même des frères que je connais, beaucoup pas de sœurs parce qu'il n'y a pas de sœurs imam, mais des frères, par exemple, qui se sont lancés dans cette voie, et c'était, franchement, c'était très compliqué pour eux. Ils passent d'une mosquée à une autre, les rémunérations ne sont pas suffisantes. Ce qu'on leur demande par rapport à la rémunération qu'on leur donne, ce n'est pas en adéquation, tu vois. On a des frères qui font des... En fait, on a l'impression parfois même que les études islamiques, finalement, ce n'est pas... Comment vous dire ça?
Par défaut.
Non, c'est pas, on n'accorde pas une importance. Ouais. Quelqu'un qui a bac plus 5, quand il discute avec un patron quel qu'il soit, il discute en tant que bac plus 5, il peut avoir des prétentions salariales. Quelqu'un qui a fait 5 années d'études islamiques, s'il vient, il demande, je sais pas, 2000 euros, il peut se retrouver face à des réactions choquées, des gens qui disent, mais pour, voilà, alors qu'il a fait ses études, elles ont de la valeur. Elles ont, ouais. Voilà, c'est un domaine, c'est pas n'importe qui peut faire khutbah, c'est pas n'importe qui peut donner une conférence.
C'est quoi un imam aujourd'hui pour toi? Comment tu le vois, un imam?
Un imam, c'est avant tout quelqu'un qui officie, qui fait les 5 prières quotidiennes, qui les dirige, qui fait khutbat al-jumu'ah. Si on se base sur, pour moi, c'est ça, un imam. Après, il peut dépasser ses fonctions, mais bon, c'est pas, une fois de plus, c'est pas donné à n'importe qui de dépasser ses fonctions. Mais souvent, tu vois, le problème, c'est qu'un imam, quand il devient trop compétent, j'ai presque dit, il faut plus qu'il reste imam. Tu vois, il faut plus qu'il reste cantonné à sa mosquée. Si vraiment c'est quelqu'un qui est capable de donner plus. Et une des raisons pour lesquelles en France on a un gros problème, je sais pas si en Suisse c'est pareil. C'est vrai que très souvent, les fidèles se plaignent, par exemple, de la qualité des prêches du vendredi. Ouais. Bon, sans incriminaliser même, parce que moi-même, pour avoir expérimenté, je m'aperçois pardon, que ce n'est pas facile de satisfaire tout le monde, de faire un prêche qui corresponde à tout le monde. Mais souvent...
Ce n'est pas dans le contenu, ce n'est pas que dans le contenu. C'est dans le... Toi, tu as passé 4 ans en Égypte, ça t'a suffi pour apprendre l'arabe et pouvoir le pratiquer et de donner des cours. Mais je le répète, et je l'ai répété les 2 derniers enregistrements, je crois. Mmh. Les imams aujourd'hui ici, ça fait quand même 3 décennies qu'ils sont là, voire 4, et ils ont toujours pas la maîtrise linguistique et
le problème,
culturelle.
Ce que je te dis, Mohamed, c'est que le problème, peut-être, il faut le prendre à l'inverse. Avec un imam qui a la qualité linguistique, qui va parler très bien l'arabe, qui va parler très bien le français, qui va avoir des compétences, qui va être capable d'aller au-delà, il restera plus imam dans une mosquée parce que là, ça répondra plus forcément à ses besoins. Tu vois ce que je veux dire?
Quand tu me parles de mosquée aujourd'hui, on a des mosquées. C'est plus des centres culturels. Tu vois, tu as des grandes mosquées, peut-être à Lyon, je connais pas les. Donc, où il peut dépasser sa fonction d'imam. Donc, je vois pas où il pourrait le faire ailleurs, si ce n'est que dans des universités, peut-être. Mais là, on est encore loin. Mais je sais qu'à Paris, à Genève, à Lausanne, il y a des très grandes mosquées. Enfin, il y a des très grandes mosquées où il peut exprimer toutes ses compétences. Donc,
c'est compliqué. Il y a beaucoup. En tant qu'imam, aujourd'hui, surtout en France, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles. Déjà, et comme je te dis, il y a. Le fait de donner à l'imam l'importance qu'il a, et ça passe aussi, il faut le dire, il faut être clair avec ça, que ça passe aussi par une rémunération décente, par une des conditions de travail décentes, tu vois ce que je veux dire?
Après, on a des imams de seconde zone ou troisième zone où, qui se retrouvent à un public, face à leurs fidèles, où ils ne répondent pas à leurs attentes non plus.
Oui, mais pourquoi pourquoi ils sont de seconde zone pourquoi ils sont des imams entre guillemets de seconde zone? Parce qu'un imam de première zone, de Ligue 1, il ne va pas rester dans cette mosquée. Tu vois, soit parce que la mosquée, elle ne va pas lui donner l'importance qu'il mériterait d'avoir. Moi, je le vois à Lyon, la plupart des imams, franchement, ils décident de rien. Ils dépendent d'associations, parce que c'est ça aussi. Tu as un statut qui est très fragile. Tu es imam, tu dépends d'une... Donc la mosquée, elle est gérée par une association, qui est généralement une association loi 1901 pour ce qui est de la France. Et c'est elle qui t'embauche. Des fois, c'est tout bête, mais il suffit qu'un président de mosquée, il ne reste pas président de mosquée à vie. Il y a des élections dans une mosquée. Parfois, certaines mosquées. Si on parle des plus grandes.
Main basse sur la mosquée, main basse sur la
Non, mais tu m'as compris, tu vois. Donc, l'imam, il peut avoir un statut très fragile. Il suffit que les frères qui gèrent la mosquée, ils changent d'orientation. Il suffit qu'ils fassent un prêche qui n'aille pas dans un certain sens. Tu vois, l'imam en France, franchement, il est très, très limité. Et c'est pas... Moi, j'ai vu, par exemple, c'est tout bête. Mais des fois, quand certaines mosquées me sollicitent, elles me disent, ouais, voilà, c'est bien, si tu... Moi, ils savent que je suis engagé, ils peuvent connaître mes opinions, ouais, essaye de pas trop parler de ça, par exemple. Tu vois ? Et après, je me dis, mais si moi, je parle pas de ça, si tu veux que je te parle que de spiritualité, ramène un imam du bled, il va en parler mieux que moi, lui.
C'est ce qui se passe.
C'est ce que je te dis. C'est pas forcément la faute de l'imam. C'est-à-dire, si toi, tu veux venir et parler aux gens de choses concrètes, les Égyptiens, ils ont une qualité, les imams égyptiens, c'est vraiment l'éloquence. Et franchement, tu vas, quand tu as vécu, comme je l'ai fait pendant 4 ans, les khutbah en Égypte et que tu viens en France, il y a un fossé. Mais la force des imams, surtout moi, quand j'y suis arrivé, Moubarak venait de tomber, mais qu'il y a eu une certaine liberté d'expression. Alors là, c'était la capacité des imams à prendre donc forcément dans l'histoire de l'islam, dans les hadiths, le Coran, et les adapter au contexte d'aujourd'hui. Et, là, et avec, en plus, tu rajoutes ça, l'éloquence et tout, c'était magnifique. Mais aujourd'hui, en France, c'est très compliqué. En France, dans une mosquée, un imam, il est conscient, lui-même, il sait qu'il ne peut pas parler de tout. Il y a plein de choses de lesquelles il ne peut pas parler. Tu vois, ouais. En plus, si tu ajoutes à ça le fait que les fidèles sont divers, tu vois, les fidèles sont divers, diversité d'âge, diversité d'origine, d'études, faire une khutba qui va satisfaire tout le monde, c'est très compliqué. Tu parles de spiritualité, tu as des frères qui disent, voilà, c'est bien si... voilà, il nous a parlé 15 fois des ablutions cette année, on a compris. C'est bien s'il nous parle de choses plus, voilà, de choses plus politiques. Si tu fais des thèmes un peu plus de société politique, tu as forcément, peut-être par exemple les personnes âgées qui disent de quoi ils nous parlent là, tu vois. Il y a, c'est, franchement, c'est vraiment pas évident. Il faudrait vraiment que les imams dans les mosquées, ils aient presque entre guillemets carte blanche. Tu vois, qu'ils ne soient pas dépendants comme ça d'une association, dépendants de... Si on ajoute en plus depuis en France qu'il y a eu les attentats, le fait que les mosquées soient sous les projecteurs... Et qu'on fait tout. On sait, nous, par exemple, qu'à Lyon, il y a eu des directives qui ont été données. On l'a su, par exemple, quand il y a eu une augmentation des actes antisémites en France, on a dit aux responsables de mosquées et aux imams ne parlez plus de la Palestine, par exemple.
Quand tu dis on a dit, c'est qui ?
C'était les préfectures, ça a été, tu vois, c'était vraiment officiel. C'était officieusement, on a fait comprendre, on passait par le CFCM, le Conseil français du culte musulman, mais on a fait passer le mot d'ordre, voilà, que parce que le contexte il pouvait être tendu, il ne fallait plus parler de la cause palestinienne, par exemple, de la question palestinienne. Tu vois, c'est tout des trucs comme ça. Donc, on t'ampute après deux faits d'un certain nombre de choses. On te dit que voilà, on fait comprendre aux mosquées qu'il ne faut pas qu'elles touchent à tout ce qui est politique, qu'elles se contentent au spirituel. C'est pour ça, moi, je dis les imams, c'est faux. À mon avis, c'est pas eux qu'il faut incriminer là-dedans. C'est pas que eux qu'il faut incriminer là-dedans. Tu vois, la question, elle est plus complexe.
Non, là, le constat que tu fais, on est tous d'accord, je pense. On est tous d'accord. On a tous des petites mosquées avec des imams. Mais là, quand tu as proposé, tu as dit il faut que les imams aient une carte blanche et il faut qu'ils soient et qu'ils soient pas dépendants des associations. Mais comment tu imagines donc cette
solution ? Théoriquement, ça paraît peu probable. Mais comme je te dis aujourd'hui, en plus le problème qu'on a maintenant, c'est des responsables. Alors une fois de plus, je ne vais pas passer mon temps à incriminer, mais des responsables qui anticipent la chose. D'ailleurs, ils n'ont pas reçu, mais ils anticipent. Moi, par exemple, quand je suis allé dans certaines mosquées, clairement, les mosquées me disaient voilà, essaye de pas parler de ça. En gros, ils te disent nous mets pas en difficulté. Et en plus, c'est très compliqué, moi, pour ce qui était mon cas, quand t'es quelqu'un d'extérieur, parce que tu te dis, si je viens, je fais une khutba, peut-être que, voilà, un peu engagé, et en plus, je vais m'en aller, je vais pas mettre la mosquée en difficulté, tu vois. Donc, il y a aussi ce stade-là. Quand je dis carte blanche, c'est-à-dire qu'il faut qu'un imam, il soit libre. Voilà, c'est lui qui décide de faire la khutba, il faut qu'il soit libre de ça. Il faut pas qu'on le contraigne, sinon forcément il se retrouve à faire des thèmes qui sont... Alors, il faut de la spiritualité, il faut des thèmes spirituels, c'est même la base, mais... Quand je dis ça, ça veut dire que voilà. Et en fait, il faut lui donner aussi un statut à l'imam. L'imam, il faut qu'il ait un statut, que ce n'est pas quelqu'un comme ça qui vient, qu'on jette, etc. Moi, je vois beaucoup d'imams dans la région lyonnaise. Franchement, ils n'ont plus envie de faire ce métier. Ce qui fait qu'on se retrouve avec beaucoup de mosquées, même parfois des mosquées importantes qui ont de nombreux fidèles, qui n'ont pas d'imam fixe. Ils ont des frères qui viennent de temps en temps, qui dirigent la prière, ils trouvent un imam pour Tarawih. Ils ont 2-3 khatibs qui viennent et qui se relaient, mais ils ont beaucoup de mal à trouver des imams et des imams fixes. Ce qui fait, Mohamed, un cas très concret que j'ai connu par une mosquée qui m'avait proposé le poste d'imam, maintenant ils ont carrément demandé officiellement à la mosquée de Paris de leur envoyer un imam qui va venir d'Algérie. Et donc on va se retrouver avec le problème que tu citais tout à l'heure, quelqu'un qui vient de l'étranger, qui ne maîtrise pas forcément le contexte, qui ne maîtrise pas forcément la langue.
À ce niveau-là, il y a aussi l'aspect économique.
Il y a aussi l'aspect économique, l'aspect économique, c'est une réalité.
Et tu as un exemple idéal en tête, est-ce que tu as une relation, comment gérer cette relation entre l'imam et les associations ou les mosquées? Est-ce que tu as un exemple concret, idéal? Parce que moi aussi, je vois ça, hein, les imams qui n'ont pas la liberté, qui dépendent de l'association, mais pas de l'association, mais de une ou deux personnes dans l'association en général, qui peuvent avec... rapidement les virer, ils n'ont pas de statut, ils ne sont pas respectés, ils ne sont pas bien rémunérés, etc. Mais je me dis au final, comment on peut faire autrement, à part améliorer le professionnalisme, si on peut utiliser ce mot, des conseils des mosquées. Parce que la relation au final entre l'imam et la mosquée, elle doit toujours être une relation d'employé à un employeur.
Voilà, tu peux. Oui, on est d'accord. C'est vrai qu'il n'y a pas de solution idéale.
Ouais.
Mais c'est la responsabilité des frères de l'association. Tu vois, qui gèrent l'association.
Les sœurs.
Ou des sœurs. j'ai pas connu Mohamed sous cet angle auparavant, voilà. Mais il a changé.
C'est sa fille qui a fait de sa fille. Sa fille, c'est ce qu'elle fait.
Machin.
Je refais ça.
Donc je disais, voilà, il m'a coupé, je sais plus. Voilà, je disais, c'est la responsabilité des frères ou des sœurs de l'association de donner à l'imam son statut et de faire en sorte, voilà, qu'il ne soit pas dépendant de... C'est pareil, quand il y a des imams qui sont dans la tourmente, c'est fondamental qu'au lieu que l'association, la première chose qu'elle fasse... Non, mais c'est vrai, des fois, on a vu ça, que dans les associations, la première chose qu'elle fait, un communiqué, ou presque, elle se désavoue. On dirait, c'est plus leur imam, tu vois. Il a dérapé. Tu vois, c'est important, à ce moment-là, au contraire, de faire front, de dire que, surtout dans un pays, et moi, c'est ça qui me tue le plus, où on nous a cassé la tête, même si j'étais en Égypte à ce moment-là, avec « Je suis Charlie ». Et à un moment donné, en France, il y avait l'injonction à être Charlie, c'est-à-dire de pouvoir dire tout ce qu'on veut, même d'insulter la religion, sous prétexte qu'on était le pays de la liberté d'expression. Et on a vu des gens nous dire « Je suis Charlie ». Alors, tu vois, et aujourd'hui, c'est quand même... Alors, si on est Charlie, soyons Charlie jusqu'au bout. C'est-à-dire, si on est capable de blasphémer, de dire « On est dans un pays où on doit pouvoir blasphémer », on doit être aussi un pays où on a quand même une certaine liberté d'expression et on doit pouvoir exprimer des idées, toujours dans le cadre de la loi. Je ne dis pas qu'un imam, il doit, sur un minbar, appeler à prendre les armes. Je ne parle pas de ça. Mais tu vois, il faut quand même jouer sur ça. L'État français était le premier à dire qu'il fallait être Charlie, on est un pays de liberté d'expression, il faut accepter qu'on se moque des religions, même qu'on insulte les prophètes, etc. D'accord, c'est la règle du jeu, d'accord. Mais inversement, il faut accepter dans ce cas-là la liberté d'expression, même quand elle ne va pas dans le sens des idées dominantes. Voilà, tu vois, c'est... Ouais. Et c'est pour ça, les responsables d'association, comme je dis, des imams parfois parfois même, alors des choses même qui font partie, il faut être sincère, qui font partie de nos sources islamiques, hein, certains hadiths qui peuvent faire polémique, comme on a vu en France sur la musique ou sur le statut de la femme, et tout de suite l'association, on se désavoue, il a dérapé, il s'excuse, au lieu de faire front et de dire, voilà, on a aussi notre histoire, nos sources, etc. Oui, il y a un contexte, effectivement, on est dans un contexte où on n'est pas dans un pays musulman, etc. Mais si l'association, l'imam, il a un statut faible, il ne peut pas dire ce qu'il veut, il est mal payé, il sait qu'il peut être viré à tout moment, lui demander de faire des khutbas de qualité, voilà, c'est mission impossible. Franchement, c'est mission impossible.
Moi, je vois ce qui se passe aux États-Unis. Bon, je suis pas un spécialiste non plus, mais je vois rapidement ce qui se passe aux États-Unis. J'ai l'impression que la relation, elle est inversée là-bas. Maintenant, les imams, ils ont de plus en plus de pouvoir sur les conseils des mosquées. C'est les conseils des mosquées qui vont aller chercher les imams, qui vont aller chercher le meilleur, qui vont renchérir un peu les salaires pour avoir les meilleurs. Et quand l'imam n'est pas content de comment l'administration s'est comportée, ben il va le dire sur le minbar, il n'a pas peur, c'est l'administration qui a peur. Moi, j'ai vu des choses comme ça, je me rappelle dernièrement d'une mosquée aux États-Unis où l'administration n'a pas bien géré, l'administration de la mosquée hein, n'a pas bien géré un cas de pédophilie. Et là, il était imam, il est employé. Et il l'a dit sur le minbar, il l'a dit publiquement, il y a des vidéos... Et il y a le président du conseil qui est obligé de prendre la parole et de dire oui, on a fait une erreur et on va tout faire pour régler ça, etc. Donc je me dis, comment on peut arriver à ce, parce que c'est ça ce que tu es en train de dire, l'imam doit avoir son statut, doit être respecté, doit être... Donc je me dis, comment on peut arriver à ce point? Parce que pour moi, c'est
un problème de gouvernance alors aussi. Alors qu'il y a un problème de gouvernance où lui-même ne serait qu'un simple employé, mais au final, il pourrait avoir beaucoup plus de pouvoir parce qu'il a beaucoup plus de résonance avec les fidèles et de se dire ben, en fin de compte, le décideur, ce n'est pas le bureau, mais c'est l'imam.
Mais après, je pense qu'en France, la situation ne changera pas, au moins pas à court terme. Pourquoi? Parce qu'on est dans une logique en France. Voilà, les gens sont craintifs, il y a un contexte qui est un peu particulier, etc. Mais la solution à terme, on le voit, comme je l'ai vu moi en Égypte, c'est-à-dire quand Moubarak est tombé, c'est d'avoir des imams qui peuvent parler de ce qu'ils veulent. Alors, une des choses qu'a fait Sisi quand il arrive au pouvoir, c'était ça. Une des premières choses qu'il a fait, c'était d'imposer un certain nombre de khutbas, ce qui se fait d'ailleurs dans la majorité des pays musulmans. On voit que même dans les pays musulmans, la solution, elle n'est pas forcément trouvée, parce que tu peux aller dans n'importe quelle mosquée, c'est le ministère des Affaires religieuses qui a envoyé la même feuille à tous les imams du pays, et donc tu te retrouves. Mais la solution, elle est là. C'est-à-dire qu'il faut que l'imam, il ait sa liberté. Voilà, qui construisent sa khutba en se disant, voilà, qu'est-ce que les fidèles attendent, qu'est-ce que je peux leur apporter, qu'est-ce que je dois leur dire, et pas si je dis ça, est-ce que ça va plaire à tel, si je dis ça. Mais aujourd'hui en France, à court terme, franchement, c'est utopique, parce que le contexte fait qu'on sait que les mosquées sont surveillées, que les imams sont surveillés, qu'on écoute les khutbas, et qu'à la moindre incartade, c'est très compliqué, on menace de fermeture de mosquées. Mais il faut que nous, au sein de la communauté, on travaille sur ça. C'est-à-dire que l'imam, c'est l'imam. C'est l'imam dans une mosquée, son rôle, il est fondamental. C'est quand même un truc, je me dis des fois, incroyable d'avoir des mosquées sans imam fixe. Ouais. Tu vois, c'est quand même avoir un bus sans chauffeur, quoi. C'est incroyable, ouais, tu vois.
Demander ce qu'il y a quelqu'un qui a le permis de conduire.
Mais bon, rien, Inch'Allah.
Ouais.
Ouais, Farid, donc on a fait une belle randonnée avec de beaux spots, des belles pauses aussi.
La prise de la hauteur, dénivelé.
Comme arrivé à la fin de la randonnée, je crois que c'était un parcours quoi, bleu, rouge, une belle randonnée en tout cas. La question que j'aimerais te poser, c'est qu'on me pose à la fin de chaque podcast, c'est si tu devais te définir en trois verbes, quel verbe tu choisirais ?
Trois verbes ? En trois verbes.
À part manger.
Après, t'as trois groupes. Hein. À part, ouais, excuse-moi, je le dis toujours, à part manger, boire et dormir.
t'aurais pu me donner trois mots. Comme les élèves, on dit toujours, faut élargir, tu vois, pour. Trois verbes. Trois verbes. À l'infinitif, quel temps. Trois verbes. Ouais, je dirais. Moi, ouais, c'est très. C'est prétentieux. J'allais dire méditer.
Ok.
Méditer. Voyager. Faut que je me justifie ou pas ?
Non, si tu veux.
Méditer.
Bon, moi, je poserai quand même la question, c'est pourquoi méditer, mais après.
D'accord. Méditer, ouais. Voyager. Lire.
Ouais. Ça. Et pourquoi méditer ? Qu'est-ce que tu veux dire par méditer ?
Bah, je pense qu'en tant que croyant, on médite. Je pensais à la prière ou au rappel, aux séances de vie que de rappel. Je pensais plus à ça, tu vois. On passe okay. quand même partie de notre temps à,
okay. à c'est méditer. Intéressant. Parce que je pense, comment on traduit la ayah qui dit Kitabun anzalna mubarakun liyadhakkaru ayati.
Pour qu'ils se rappellent.
Non. Liyadhabbaru ayati. Pas liyadhakkaru, liyadhabbaru ayati. Liyadhabbaru, c'est méditer, non?
Ouais, c'est plus. Je sais pas s'il y a un verbe équivalent.
Ouais, je...
Il lui faut une cinquième année en Égypte.
Ouais, en tout cas, la méditation pour moi, j'ai toujours, quand j'entends méditer, c'est toujours méditer les sens qui sont dans le Coran.
Ah, d'accord.
Ouais, c'est pour ça que j'ai posé la question. Ok, très bien, donc, méditer, voyager et lire. L'autre question qu'on pose toujours dans notre podcast, si... Tu devais choisir des personnalités qui sont vivantes, des personnalités historiques, comme tu veux, famille, comme tu veux, pour t'accompagner dans une randonnée d'une journée, tu choisirais qui et pourquoi ?
J'en ai combien ?
Autant que je veux. Deux, trois, comme tu veux, en général. Les...
deux, trois.
Ouais.
Bah, la première, c'est évident, c'est le prophète.
Non. Interdit. Ouais, ça, c'est la condition, pas les prophètes.
Ah, bah,
pas
faut me dire, alors, dites-moi,
ouais.
Pas qui alors.
Ouais. Non, pas. À part juste, les prophètes.
Juste à part les prophètes. Ouais. Trois personnalités avec
pas
qui je dois.
Personnalités religieuses, comme tu veux, famille, comme tu veux.
C'est original comme question.
Ça pas trois, hein, c'est comme
parce
tu
que
veux.
Parce que la rando.
Une, deux, ouais. Voilà. La rando, elle se fait en individuel. En...
Faudrait, ça veut dire trois personnalités qui m'auraient marqué ou qui
ouais, rapidement, ouais. Ouais.
Mais là, comme ça, tout de suite.
On n'a pas dit trois. Hein. Il y a pas de nombre déterminé. Oui, il y a pas de nombre déterminé. Parce que tu insistes avec le trois, je sais pas.
Ah, parce qu'il y avait trois verbes.
Ouais, c'est trois verbes. Trois verbes, c'est. Comme ça, instinctivement, si tu.
Ça vient pas instinctivement, tu vois. Parce que peut-être parce que.
Moi, je dis.
Je suis quelqu'un de solitaire. Okay.
Bah, peut-être tu la feras. Ouais, tu souhaites la faire avec personne, justement, tu.
Non, bah, si t'as le choix comme ça, t'as forcément des... Mais là, un nom qui me viendrait comme ça, là, tout de suite, non, j'ai pas.
Ok, bah Farid, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir reçu ici le centre Tawhid. J'en avais beaucoup entendu parler, jamais eu l'occasion de venir, et ben on a joint l'utile à l'agréable. Donc, barakallahu fik, et salam alaikum.
Alaikum salam alaikum.